Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC. Très bon réveil à tous. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Après un calme de courte durée, les tirs dans le détroit d'Ormuz, l'armée américaine a ouvert le feu contre un cargo iranien. Un navire français a quant à lui été endommagé par Téhéran. Présent ou pas, Elon Musk, invité à s'expliquer aujourd'hui par la justice française, les dessous de sa plateforme X dans le viseur des enquêteurs. Et en foot, Paris chute à domicile et laisse Lens se rapprocher dans la course au titre de Ligue 1.
Le détroit d'Ormuz sur le point de s'embraser.
Carrefour du pétrole mondial à nouveau fermé à double tour. Le blocus iranien a repris ce week-end. Blocus américain toujours en cours. Et les États-Unis ont décidé de montrer les muscles, quitte à risquer l'escalade à deux jours de la fin du cessez-le-feu. Leur armée a attaqué et pris le contrôle d'un navire iranien hier, Marion Degas.
Oui, le porte-conteneur iranien Tuska, parti de Malaisie il y a environ une semaine, a tenté de franchir le blocus américain, écrit Donald Trump. Selon lui, l'équipage a été averti mais a refusé d'obéir. La marine américaine a alors tiré à plusieurs reprises sur la salle des machines du cargo avant de prendre son contrôle. La veille, ce sont plusieurs navires commerciaux qui avaient été visés cette fois-ci par des tirs iraniens. Ils tentaient de franchir le détroit d'Ormuz alors que Téhéran venait d'annoncer sa réouverture avant de faire marche arrière. Parmi eux, un navire français de CMA-CGM, propriétaire de RMC, visé par des tirs de semonce. Le transporteur maritime précise que l'équipage est sain et sauf. Selon nos informations, le navire a fait demi-tour. L'Organisation maritime internationale a précisé de son côté que le navire avait été endommagé.
Et conséquences diplomatiques, d'abord Téhéran qui a promis de riposter à la prise de ce navire et qui exclut toute négociation de paix alors qu'une délégation américaine doit arriver au Pakistan ce soir pour une nouvelle session de discussion. Et puis conséquences économiques également, les cours du baril de pétrole sont repartis à la hausse ces dernières heures au moment où les distributeurs de carburant ont une nouvelle fois rendez-vous chez nous avec le gouvernement aujourd'hui. Cette flambée des prix des carburants, elle profite au marché des véhicules électriques. Vous nous le dites souvent au 32-16, le problème, c'est le tarif de ces voitures déjà, mais surtout, comment recharger facilement. L'une des solutions, c'est d'installer une borne dans sa copropriété. RMC a enquêté, les demandes explosent chez un des leaders du secteur. Elles ont doublé en un mois et Clara Gabillet, les professionnels sont sur le pont pour faire face à la demande.
Les cartons s'empilent sur les palettes, les bornes vérifiées une par une.
Là, c'est un câble de recharge qui va partir chez un de nos clients. On est bon pour absorber tout le surplus de demandes.
Car les devis s'enchaînent depuis deux semaines. Zakaria supervise toute la logistique chez Watt.
Il va falloir qu'on prépare plus vite, il va falloir qu'on expédie plus vite.
Tout s'est accéléré début avril, assure Jacques-Alexis Bon, directeur général adjoint de cet opérateur de bornes de recharge.
Il y a beaucoup plus d'appels, on fait beaucoup plus de devis aussi. Là où on avait souvent des reports de décisions qui étaient faits, là, les gens, maintenant, ils prennent des décisions.
Décision boostée par la hausse des prix du carburant et la hausse de la prime de l'État pour installer des bornes qui vient de passer à 12 500 euros par immeuble. Les demandes ont donc doublé en moins d'un mois chez The Plug, son directeur général Nicolas Blanchet.
On avait à peu près 500 demandes par semaine. Aujourd'hui, c'est 1000 demandes par semaine. Vous avez d'un côté la réflexion sur le prix du carburant qui pèse de plus en plus sur le portefeuille. De l'autre côté, un message positif pour inciter à l'équipement. Donc, rouler en électrique est encore plus avantageux.
Car grâce à une recharge lente, la nuit chez soi, 100 km d'autonomie en voiture ne reviennent qu'à 3 euros selon EDF.
Clara Gabillet pour RMC. Notez aussi que le corps de Florian Montorio a bien été rapatrié hier. Ce soldat français tué dans une embuscade ce week-end alors qu'il était déployé parmi les casques bleus de l'ONU au Liban. Il est 7h04 sur RMC. Les militants LR ont choisi Bruno Retailleau. Ils ont voté à 74% pour écarter l'hypothèse d'une primaire et donc propulser le président du parti comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est sur le papier, Romain Cluzel, car ça ne calme pas les velléités de ses adversaires en interne.
Exactement, parce que ce vote n'écrase pas le match pour les opposants internes à Bruno Retailleau. Tout le monde s'en fout, lâche un cadre du parti, qui note que le nombre de votants a chuté entre l'élection de Bruno Retailleau comme président de LR l'an dernier et sa désignation comme candidat à la présidentielle hier. Bruno Retailleau le sait, il doit toujours faire face aux ambitions de membres de sa famille politique comme Xavier Bertrand ou David Lisnard, mais aussi d'autres prétendants du centre droit comme Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Alors pour espérer monter dans les intentions de vote, il compte compte enchaîner les annonces sur son projet thématique par thématique, avec des déplacements partout en France, avant un meeting prévu au mois de juin. Un proche de Laurent Wauquiez-Rail, Bruno Retailleau va devoir mettre le super turbo. Les sondages le créditent à ce stade de 7 à 10% d'intention de vote.
Romain Cluzel du service politique de RMC. Un père de famille est entre la vie et la mort à Toulouse, touché samedi soir par le tir d'une gendarme. Elle et son équipe avaient été appelés pour des violences conjugales. L'homme a commencé à frapper les agents malgré des coups de taser. Elon Musk, convoqué par la justice française aujourd'hui, le milliardaire américain sera-t-il présent en personne à cette audition libre? Rien n'est moins sûr. En tout cas, les enquêteurs veulent l'entendre en tant que patron de la plateforme X, un réseau social pas officiellement poursuivi mais soupçonné de nombreuses infractions. Alfred Orange.
C'est l'algorithme de X, soupçonné d'être biaisé, qui a attiré en premier l'attention de la justice, redoutant un terreau favorable aux ingérences étrangères. Mais c'est l'intelligence artificielle du réseau social baptisé Grok qui concentre désormais les investigations, accusé aussi bien de créer des photomontages sexuels non consentis que de relayer des propos négationnistes. La procureure de Paris liste au total 7 infractions pénales. C'est dans ce contexte qu'Elon Musk et une dizaine de cadres de l'entreprise américaine sont invités à comparaître pour y donner leur version des faits. Le réseau social dénonce, je cite, un acte judiciaire abusif. Réponse du parquet de Paris, l'absence de ses cadres dirigeants à cette convocation n'est pas un obstacle à la poursuite des investigations.
Les explications d'Alfred Orange pour RMC.
7h07, le football et cette Ligue 1 passionnante jusqu'au bout.
A commencer par la course au titre. Faux pas du Paris Saint-Germain hier soir, battu par Lyon de 2-1. Les Parisiens sont désormais à portée du deuxième lançoir, Turpero.
Oui, avec cette 5e défaite de la saison, Paris ne compte plus qu'un point d'avance sur son dauphin Lens, mais avec un match en retard. L'entraîneur parisien, Luis Enrique.
Vous aimez un championnat plus disputé, c'est un championnat disputé. Et Lens, il continue à gagner des matchs et ce sera difficile jusqu'à le dernier match.
Pas le temps de souffler pour Paris qui va disputer 9 matchs en 27 jours, dont une demi-finale de Coupe d'Europe face au Bayern Munich. Alors le PSG va-t-il prioriser une compétition?
Non. La priorité, ce sont les deux compétitions qu'on peut gagner. C'est la priorité.
Avec cette cadence infernale, le défenseur Lucas Beraldo se sait très attendu.
Cette dernière mois va être très difficile pour nous. C'est 9 matchs qui c'est très important. Tous les matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue 1 aussi. Et on est là toujours pour gagner chaque match.
Paris devra montrer un tout autre visage et se relancer dès mercredi au Parc des Princes face à Nantes, l'avant-dernier au classement, avant un choc au parfum de finale du championnat contre Lens, le 13 mai prochain.
Et côté Olympique Lyonnais, cette victoire permet à l'OL de monter sur la 3e marche du podium. Et puis un mot de basket, premier match de playoff NBA, première victoire pour Victor Wembanyama cette nuit avec San Antonio contre Portland. Wemby, on l'a appris hier aussi dans les 3 finalistes pour le trophée de meilleur joueur de la saison.
C'était le journal de Victor Pourchet, il est 7h08 sur RMC. Au 32-16, je voudrais qu'on accueille Laurent qui nous appelle de Gironde. Bonjour Laurent.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Laurent? Vous êtes prof de maths à Saint-Vivien de Médoc. Et vous vouliez revenir sur cet engrenage en quelque sorte, c'est-à-dire la hausse des prix du carburant, mécaniquement hausse des prix du transport, et donc on commence à évoquer le fait que si ça dure, eh bien c'est les prix dans les rayons qui vont augmenter. Hein.
Oui, c'est prof de sciences de l'ingénieur, mais en fait c'est pareil.
D'accord.
Mais de toute façon, ça a déjà augmenté. Moi j'ai vu que ma courgette, elle prenait le détroit d'Hormuz. Hein. Elle est passée avant le conflit de 1,49€, 1,80€ à 2,50€.
Oui, donc clairement, vous ne le saviez pas, mais en fait, c'est une courgette iranienne.
Oui, c'est ça.
C'est ça, ce que vous êtes en train de nous dire.
Voilà.
Et après, non, mais effectivement, tout augmente et sans forcément de justification.
Ah bah si, la justification, c'est avant tout passer par l'Ukraine, même ma courgette, et maintenant ma courgette est devenue iranienne.
Ouais c'est ça. Vous avez le sentiment que c'est quand même... Elle a bon dos?
Ah oui, clairement. Tout à bon dos là, et puis il faudrait une réponse collective. Là, votre intervenant, il voulait la TICPE en moins que pour les transporteurs. Non, à un moment donné, il faut que l'État, il arrête de se gaver. L'État, c'est taxe. Donc l'État, il faut qu'il fasse économie et rendre du pouvoir d'achat aux Français.
Alors, économie, hein, c'est aussi ça la question. Parce que en effet, le problème...
Mais moi, je trancherai là-dedans, mais comment je vous ferai des économies?
Où
le fameux sujet de toutes les agences, le Conseil économique, social et environnemental, enfin tous ces trucs où on classe, où on passe le commissaire au plan, là on met tous nos copains. Alors c'est une petite somme à chaque fois, mais multiplié par le nombre qu'ils sont, je suis sûr qu'on va sortir quelques milliards, sans souci.
Merci beaucoup.
Sans compter les députés.
Merci Laurent, on en reparlera justement avec Emmanuel Le Chypre tout à l'heure à 8h10, mais aussi cette question, c'est vrai que quand on regarde nos voisins, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, qui aujourd'hui font des gestes sur la question des taxes, oui, mais sauf que ils ont fait le ménage dans les comptes et qu'ils ont un budget, des comptes, un déficit moindre que le nôtre, et c'est toute la question. Merci en tout cas pour votre témoignage, n'hésitez pas, vous faites le 32-16 pour témoigner et réagir avec nous. Il est 7h10. Sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il s'appelait Florian Montorio, sergent-chef de l'armée française engagé au Liban pour la mission de l'ONU. Il a été tué ce week-end, vraisemblablement par le Hezbollah dans le sud du pays. Bonjour Dominique Trinquant.
Bonjour Apolline.
Général, vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. La mort de ce soldat français ne doit pas pour autant remettre en cause l'engagement français sur place. Voilà votre parti pris. On y revient dans un instant. 7h11.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La dépouille du soldat français a été rapatriée hier en France. Florian Montorio a été pris dans une embuscade dans le sud du Liban samedi matin dans le cadre de sa mission de l'ONU. 3 autres soldats français ont été blessés, dont 2 grièvement. Bonjour Général Dominique Trinquant.
Bonjour Apolline.
Merci d'être dans ce studio avec nous. Votre parti pris, c'est que l'engagement français au Liban doit persister. On va y revenir évidemment dans un instant, mais d'abord une question sur ce qu'il s'est joué ces toutes dernières heures, cette nuit. Un bateau français touché par des tirs iraniens. C'est un bateau d'ailleurs CMA-CGM, propriétaire d'RMC et BFM TV. De l'autre côté, un bateau iranien arraisonné par les États-Unis. Est-ce qu'on est à un tournant dans le détroit d'Ormuz ? Est-ce que vous vous dites que ça peut vraiment s'embraser ?
Oui, ça peut vraiment s'embraser. Il faut rappeler que l'ultimatum du président Trump se termine demain soir. Et donc, il y a eu une réunion importante dimanche à Washington dans laquelle il a dû prendre des décisions sur des options. Et les Iraniens, actuellement, semblent ne pas vouloir négocier. Donc, s'il n'y a pas de négociation, le cessez-le-feu arrive à son terme. Et à ce moment-là, d'autres options doivent être mises en œuvre par les Américains en particulier.
D'ici demain minuit, en effet, fin de l'ultimatum ou du cessez-le-feu. Quand vous dites d'autres options, qu'est-ce qui reste sur la table ? La reprise des hostilités ?
La reprise des hostilités, si les Iraniens ne veulent pas revenir à la table des négociations, bien sûr.
Dans ces cas-là, évidemment, ce serait reparti effectivement pour ces frappes. Mais encore une fois, cette nuit, il y a eu donc ces tirs vis-à-vis d'un bateau, en effet, occidental français. Un bateau britannique également aurait été touché. Et puis, un bateau iranien qui donc a été sous contrôle au moment où on se parle des Américains. Ce français sergent, le sergent Florian Montorio, qui a donc été tué samedi au Liban. La France doit maintenir son engagement au Liban, général.
La France est présente au sein de la FINUL depuis 1978. Ce mandat se termine le 31 janvier de cette année, parce que les Américains refusent de payer plus longtemps cette opération, et par ailleurs parce que depuis la résolution 1701 en 2006, normalement le Hezbollah aurait dû être désarmé. Ça fait 20 ans. Et le gouvernement libanais n'a pas fait grand-chose pendant ces 20 ans. Depuis à peu près un an, il a enfin décidé de vouloir désarmer le Hezbollah. La FINUL est là pour aider l'armée libanaise. Il ne s'agit pas de laisser tomber l'armée libanaise au moment où elle a besoin de nous et au moment où le Liban, globalement, a besoin de la France.
Est-ce que vous pouvez nous redire quel est le rôle, la mission de la FINUL ?
La FINUL est là-bas pour aider l'armée libanaise a désarmé le Hezbollah et pour accompagner la population. J'ai moi-même commandé un bataillon dans cette région-là, un bataillon français, et je peux vous dire que les Français sont accueillis partout à bras ouverts. La France est notre mère, disent les Libanais, ce qui nous fait un peu mal au cœur parfois parce qu'on se rend compte de la faiblesse de nos moyens. Mais ceci étant, sans la FINUL, l'armée libanaise aurait encore moins de moyens, et en particulier le sergent Montonio qui a été tué, est du 17e régiment de génie parachutiste. C'est quoi ? Ce sont des gens spécialistes dans le déminage. Et il a probablement été tué en voulant effectuer un déminage pour débloquer une position de la finule.
Général, les règles sont très strictes, hein, les règles d'engagement. On n'a pas le droit, nous, soldats français, d'intervenir contre l'un des belligérants, sauf en riposte, c'est bien ça?
Oui.
Donc on est en quelque sorte une force d'interposition?
Oui, tout à fait, et on intervient avec ses armes. Ne disons pas que les soldats sont désarmés, ils sont armés. Simplement, les règles sont qu'ils ouvrent le feu si... dans un premier temps, ils sont menacés ou attaqués.
On redécouvre ce que vous disiez, c'est-à-dire ce paradoxe libanais. Depuis 2006, le Hezbollah est censé être désarmé. On voit jour après jour que ce n'est évidemment pas du tout le cas. Vous parlez de l'armée libanaise. Quand on dit l'armée libanaise, on distingue donc le Hezbollah, qui est parfois aussi armé, voire même plus, oui, que l'armée régulière libanaise.
Bien sûr. Le Hezbollah s'intitule la résistance libanaise. Et c'est là qu'il y a eu un tournant, parce que maintenant les Libanais disent « mais cette résistance, elle défend pas le Liban, elle défend l'Iran, et elle est armée par l'Iran. Et donc il faut arrêter de soutenir ce mouvement chiite, donc essentiellement dans le sud, et qui est aux ordres de Téhéran, et non pas de Beyrouth. L'armée libanaise, elle, est aux ordres du gouvernement libanais. Mais comme on le sait, le gouvernement libanais est très faible, l'armée elle-même est très faible, la France la renforce, lui a envoyé des véhicules blindés il n'y a pas très longtemps, et il faut continuer.
39 véhicules blindés qui ont été envoyés effectivement il y a une dizaine de jours. Général, la mort d'un de nos soldats, c'est évidemment toujours un drame absolu, et on se souvient de ces mots le 18 novembre dernier du général Fabien Mandon, qui est notre chef d'état-major des armées. Devant les maires de France, il avait eu cette expression: la France doit accepter de perdre ses enfants. Ça avait créé une polémique inouïe, comme si c'était extrêmement choquant d'avoir dit ça. Quand on voit aujourd'hui, en effet, parfois elle perd ses enfants, mais sommes-nous prêts à cela? Est-ce qu'il n'avait pas raison, au fond, de dire « mais réveillons-nous, il faudra à un moment ou à un autre... »
Oui, il faut se réveiller. Le soldat s'engage non pas pour aller mourir, évidemment. Il s'engage pour s'entraîner, se préparer, remplir sa mission, mais la mort fait partie des éléments qu'il doit prendre en compte. Et ça, les soldats en sont bien tous convaincus. Lorsqu'ils s'engagent, on les prépare à mieux se défendre, à mieux se protéger, mais ils peuvent être tués. Le problème, ce sont les civils, pardonnez-moi, nous tous autour, qui regardons ça, et on dit, c'est pas possible, il y a un soldat qui a été tué. Ça fait partie, j'allais dire, des risques du métier, malheureusement, mais ceci ne limite absolument pas l'engagement. Je rappelle qu'il y a à peu près 20 000 jeunes Français, tous les ans, qui s'engagent, et qui savent qu'il y a quelque chose de plus important que leur vie, d'une certaine façon, mais on va les préparer à se défendre, à se protéger, pour défendre leur pays.
Merci beaucoup, général Dominique Trinquant, d'être venu sur RMC ce matin, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU, et vous l'avez dit, servi au Liban. Il est 7h20. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Notre historien à nous sur RMC. Arthur, 15 000 habitants ont été évacués hier en région parisienne après la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, plus d'un milliard de bombes sont tombées en France pendant les deux guerres mondiales, et celles qui n'ont pas explosé sont encore plus dangereuses aujourd'hui.
Vous nous le direz dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Il est 7h20 sur RMC, on se retrouve dans 30 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story, c'est l'heure de remonter le temps. Arthur, quand l'histoire nous montre effectivement qu'il y a encore aujourd'hui des traces de la Seconde Guerre mondiale, une vaste opération de déminage a eu lieu à Colombes en Île-de-France. 800 agents ont été mobilisés ce week-end pour neutraliser une bombe qui date de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, des milliers de riverains ont été évacués sur un périmètre de plusieurs centaines de mètres. L'opération déminage a commencé à l'aube et s'est poursuivie toute la journée. Les démineurs ont d'abord essayé d'extraire le détonateur, alors ce qui a échoué. Donc, ils ont finalement enfoui l'engin explosif sous terre pour le faire exploser.
Pourquoi on retrouve encore et si souvent des bombes des deux guerres mondiales?
Eh bien, parce qu'on en a tiré énormément. Hein. Rien que pour la Première Guerre mondiale, on a tiré 1 milliard d'obus en France, hein, sauf que le quart d'entre eux n'a jamais explosé. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est 15% des projectiles qui n'ont pas explosé. Donc maintenant, évidemment, il faut aller les récupérer. Depuis 1945, on a neutralisé 700 000 bombes, 13 millions de mimes et 35 millions d'engins explosifs. Alors vous me direz, c'est pas mal, mais en fait on est quand même très loin du but, puisque d'après les scientifiques, il va falloir 7 siècles pour éradiquer...
Pardon ?
7 siècles
ah ouais.
pour éradiquer toutes les bombes sur notre territoire.
Elles sont encore dangereuses aujourd'hui, c'est bon ?
Alors pour la plupart, elles sont même encore plus dangereuses, Apolline, hein, puisqu'en fait elles n'ont pas explosé, mais elles sont toujours chargées de poudre, hein, d'explosifs, et donc avec le temps, elles sont devenues hypersensibles, beaucoup plus sensibles qu'au moment où elles ont été utilisées. Donc si vous trouvez un obus chez vous, ne touchez à rien et appelez les services de déminage. Hein, c'est mon conseil ce matin.
On retrouve même des projectiles vraiment très très anciens.
Et oui, et même dans des circonstances totalement improbables. En 2023, à Volpény, en Seine-et-Marne, alors qu'une femme était en train de jardiner, elle a découvert un obus de 20 cm dans son jardin. Naturellement, elle a pris peur, elle a alerté les services de déminage. Et finalement, on s'est rendu compte que cet obus daté de la guerre de 1870, c'est-à-dire un conflit qui opposait la France et l'Allemagne il y a plus de 150 ans.
Il y a des bombes nucléaires qui n'ont jamais explosé ?
Et oui, c'est méconnu, mais c'est vrai, hein, les spécialistes de ça, ce sont les Américains. À ce jour, ils ont admis avoir perdu 3 bombes nucléaires.
Mais non.
3 quand même, pendant des entraînements. Et vous allez voir, c'est pas rassurant du tout. Je vous raconte l'histoire d'une de ces 3 bombes perdues. Nous sommes en 1965, à bord d'un porte-avions américain, au large de la mer des Philippines, donc à côté du Japon. Et sur ce porte-avions, il y avait un avion chargé avec une arme nucléaire. Sauf que pendant une manœuvre, l'avion a glissé sur le pont
mais
et
non.
est tombé dans l'eau. Il a coulé à pic avec sa bombe atomique, un scénario de bande dessinée.
Mais non, du coup on fait quoi ? On la laisse là, dans l'eau ?
Et ben là, on n'a rien pu faire. Hein. L'avion a coulé, on n'a jamais récupéré ni l'avion, ni la bombe, ni le pilote. Elle est toujours au même endroit, à l'endroit où on parle, c'est-à-dire à 5000 mètres de profondeur. Les États-Unis n'ont reconnu cet incident qu'en 1989, c'est-à-dire 24 ans après les faits. En nous disant qu'il n'y avait rien à craindre, eh bien, on l'espère.
On croise les doigts. Merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Bonjour
Apolline. Salut Arnaud.
La bombe de RMC qui va exploser de rire.
Patrick Sébastien. Exactement, je suis prête, je suis prête. Arnaud, mon invité à 8h la nuit tout à l'heure, c'est l'ancien ministre de l'économie et ancien commissaire européen, Thierry Breton.
Oui, Thierry Breton, oui, ancien commissaire au marché intérieur, qui vient nous aider à examiner et à comprendre notre marché intérieur. Mmh. Est-ce que vous écoutez autour de la table suffisamment votre marché intérieur ? Moi, hier, j'ai fait le plein de la Twingo, ça m'a coûté 90 balles. J'ai senti que je l'avais dans le marché intérieur. J'étais quand même vraiment pas content. Thierry Breton, qui a une particularité en ce moment, c'est le seul homme de droite de plus de 50 ans à ne pas avoir déclaré sa candidature à la présidentielle.
Oh bah attendez,
bah alors Thierry, faut pas être timide comme ça, mon garçon. Si même Barnier et Lisnard l'ont fait, tu peux le faire, hein, tu seras pas plus ridicule. Oui, toi aussi, tu peux faire campagne en promettant l'austérité. Toi aussi, tu peux organiser des meetings à la salle communale Marielle Guatchel de Bourg-Saint-Maurice. Toi aussi, tu peux viser les moins de 5% comme Valérie Pécresse. Il faut croire en ses rêves. Regarde, Apolline est devenue actrice. Elle l'aura, cette arme. C'est important de rêver. Thierry Breton, qui est un redoutable négociateur, faut l'envoyer à Islamabad pour les pourparlers de paix, là. Trump nous écoute absolument pas, en plus. En même temps, il écoute qui, lui ? Le lapin de Pâques, Jésus, Jeffrey Epstein et Fox News. Je pense que la clé, c'est de lui envoyer un émissaire européen déguisé en lapin raciste, intégriste, pédophile.
Ah bah, c'est sûr.
Monsieur Donald, je suis Adolphe le lapin. Il faut que tu arrêtes ton blocus. Sinon, comment les conducteurs de camionnettes des Ardennes vont faire le plein pour aller à l'église ? Oh, tu as raison, Adolphe le lapin. Non, mais au point où on en est, je veux dire, c'est pas plus bête qu'autre chose, quoi.
Ça se tente.
Moi, je. Vous savez, j'en suis à me. Enfin, moi, je sais pas ce qu'il va faire cette semaine. Je me dis, on devrait se créer une grille de bingo et faire le bilan vendredi. Vous savez, à peu, on ferait des cases, là.
Ouais.
Il y aurait lancer une bombe nucléaire, insulter Macron, faire une déclaration à poil.
Et ensuite, on fait des...
boire de la cétone et on fait des croix au fil de la semaine. Poster une photo de lui déguisé en Mahomet, se couper les ongles de pied pendant un meeting avec Zelensky, uriner sur un général 5 étoiles,
faire un discours
avec un poireau dans la main et un seau sur la tête, débarquer avec un blackface en disant « Je suis un meilleur président noir qu'Obama. » Il peut tout nous faire. Il y a tellement plus rien d'étonnant qui revient de là-bas. Non, l'autre jour au Pentagone, le ministre de la guerre, Pete Hegseth, il a voulu faire une prière.
Ouais.
Vous avez vu ce qu'il a fait ? Il a cité un monologue de Pulp Fiction en pensant que c'était un passage de la Bible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est bon, quoi. C'est comme si Macron priait en disant « J'étais assis sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. »
Je l'ai, moi.
Mais Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas.
J'étais assis Cyrus.
Que l'on retrouve tous les jours pour notre plus grand bonheur à 7h20 et 8h20. Il est 7h27 sur RMC. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 7h30. Et puis notez, tiens, qu'à 7h50, ce sera la voix de droite. Louis Sarkozy, comme tous les lundis. Et il s'attaque ce matin au RN. Jordan Bardella va déjeuner aujourd'hui avec les patrons du MEDEF. Le Rassemblement National a un programme économique socialiste. Voilà le parti pris de notre voix de droite. En ce jour de lundi, il est 7h27. Restez bien sur RMC. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal présenté par Solène Garbry. Bonjour Solène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les ados passent jusqu'à 5 heures par jour devant leurs écrans. Une addiction qui les rend parfois agressifs, vous allez l'entendre. RMC s'est rendu dans le village où a grandi Florian Montorio, le sergent-chef tué ce week-end au Liban. Et puis en tennis, Arthur Fils revient en force et remporte son premier titre de la saison à Barcelone.
Nos ados passent entre 3h30 et 5h par jour devant les écrans.
Oui, et ce matin, on a décidé de vous parler de l'agressivité liée à cette addiction. Louis Salé, vous avez enquêté pour RMC sur ces adolescents qui n'arrivent plus à se détacher de leurs écrans.
Oui, c'est ce que remarque Marie Tamboura, principale d'un collège à Montreuil et membre du syndicat SNPDEN, lorsqu'elle confisque les smartphones.
J'ai plusieurs exemples très précis avec parfois des jeunes filles ou des jeunes garçons qui ont pleuré avec beaucoup de colère, de l'agressivité, des élèves qui refusent de lâcher l'objet et en disant « je ne peux pas le faire, je n'y arrive pas, c'est trop dur ».
Elle renonce parfois à prendre le téléphone et convoque la famille pour les orienter vers un centre médico-psychologique. Certains sont spécialisés dans l'usage excessif des écrans, comme celui de Nicolas, près d'Orléans. Ce lycéen a développé une addiction à la plateforme de jeu Roblox, jusqu'à inquiéter sa mère Séverine.
Il était arrivé à un point où il se réjouissait seulement quand il allait avoir les vacances avec plus de temps pour pouvoir jouer. Et on avait vraiment, à partir d'un certain moment, là, vraiment la sensation qu'il n'y avait plus que ça qui lui faisait plaisir en fait dans la vie. Quand nous, on finit par exiger qu'il s'arrête, il pouvait s'énerver, crier, claquer des portes. Et finalement, on le laissait jouer plus longtemps.
Nicolas s'en est sorti grâce à une interdiction totale de jouer sur l'ordinateur mise en place par la psychologue du centre qui préconise, comme pour un drogué, le sevrage complet du produit addictif.
Louis Salé pour RMC. Une aide bienvenue mais compliquée à obtenir. L'aide exceptionnelle du gouvernement sur le carburant est entrée en vigueur hier. Entre 70 et 500 euros pour ce mois d'avril. À l'attention des professionnels des transports routiers, donc les autocars, les ambulances et les camions de marchandises. Une bonne idée selon les professionnels, mais le problème c'est de l'obtenir, Antonin Audion.
Une vraie respiration pour l'entreprise de Mathieu Bienvenu à côté d'Aix-en-Provence.
On est tout petit, donc 500 euros, c'est bien.
500 euros, c'est le montant qu'espère obtenir le chef d'entreprise pour chacun de ses 6 poids lourds au mois d'avril, une fois son dossier traité et sa demande acceptée.
Cette aide, elle va être intéressante, mais l'idéal, ce serait de faire soit un gasoil professionnel moins cher ou enlever des taxes. Et en fait, c'est là maintenant qu'on a besoin d'argent.
Le montant des aides dépend de l'entreprise, ambulance, car ou poids lourd, de son chiffre d'affaires, du nombre de camions ou encore de leur poids.
On voulait quelque chose de rapide et simple. Et là, c'est compliqué et puis illisible.
Stéphane Clément est à la tête d'une entreprise de 50 semi-remorques. Il craint que l'aide ne soit pas adaptée à la situation.
Là, ils viennent juste de nous sortir le décret. C'est une vraie usine à gaz. Hein. On va discriminer certaines entreprises. On va faire de la concurrence déloyale entre ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit. On y pas clair du tout.
Les entreprises doivent s'inscrire avant le 15 juin pour profiter du dispositif.
Et les prix du baril de pétrole sont à nouveau en hausse ce matin. Après de nouvelles tensions cette nuit dans le détroit d'Ormuz, la marine américaine a ouvert le feu sur un cargo iranien qui tentait de forcer le blocus américain. L'Iran qui annonce ce matin refuser de participer aux négociations avec les États-Unis prévues au Pakistan cette semaine. À Paris, Emmanuel Macron convoque lui un conseil de défense à 8h30 sur la situation au Moyen-Orient. Le corps du sergent-chef Florian Montorio a été rapatrié en France hier. Ce soldat des casques bleus est mort samedi au Liban dans une embuscade. Père de 2 enfants, il était rattaché au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, mais a grandi dans le village de Valence d'Agen. C'est là que s'est rendue Lou Garnier pour RMC. Elle a pu rencontrer des proches du sergent-chef.
Autour de la table, les regards se perdent quand on évoque le soldat disparu.
C'était un gars simple, un copain, un homme de cœur.
Des gens qui sont décédés, on leur trouve toujours des bons côtés. Et là, moi, je peux vous garantir que c'est sincère.
C'est pas des paroles à lire.
Joël, Francis et Christian sont d'anciens militaires et des figures du rugby club du Brulois 82 dans lequel a joué Florian. Joël l'a connu à l'armée avant de le retrouver sur le terrain.
Le rugby, c'était aussi sa vie. Hein. On est fiers du gamin qu'on a connu. Il était joyeux, puis c'est un leader. Il tirait les autres vers le haut.
Il pleure aujourd'hui ce gamin, comme il l'appelle. Devenu sergent-chef, Florian Montorio laisse derrière lui ses deux filles. Il était déployé au Liban depuis le 20 janvier dernier.
Il y a des missions comme ça, ils sont préparés pour. Mais c'est toujours difficile quand on connaît la personne de l'accepter. C'est mission soldat de la paix, mais on risque autant que... Voilà, la preuve. Il est mort en tant que chef. C'est un vrai soldat, c'est un guerrier. Il est mort avec ce qu'il aimait faire.
Pour honorer sa mémoire, ils espèrent qu'un hommage sera organisé aux Invalides à Paris.
Un reportage de Lou Garnier pour RMC. Bruno Retailleau est désigné candidat Les Républicains à la présidentielle. Les adhérents du parti ont voté hier entre deux formes de primaire plus ou moins ouvertes. Et 74% des votants ont désigné leur président de parti comme candidat pour 2027. Elon Musk, convoqué par la justice française à Paris aujourd'hui, le milliardaire américain doit donner sa version sur les nombreux abus de son réseau social X et surtout de son IA, Grok, soupçonné d'avoir créé des photomontages sexuels non consentis et relayer des propos négationnistes. On ne sait pas si Elon Musk se rendra à cette audition libre. En tennis, Arthur Fils revient en force et a remporté son premier titre de la saison hier à Barcelone, l'ATP 500. Eric Salio, le français, a battu le numéro 15 mondial, Andrei Rublev, à un mois du début de Roland-Garros.
Oui, et comme le veut la tradition, Arthur Fils a piqué une tête dans la piscine du club centenaire de Barcelone. Un instant jubilatoire où les moments douloureux de sa longue indisponibilité ont dû ressurgir. Au prix d'efforts et de sacrifices, il a su se reconstruire un dos tout neuf en gagnant ce tournoi réputé. Il envoie un message puissant. Il faudra compter avec lui pour cette saison sur terre battue, avec en point de mire évidemment Roland Garros, ce chelem qu'il avait dû abandonner l'an passé en cours de route, le pire souvenir de sa carrière. Sur le plan comptable, Arthur Fils pointe ce matin au 25e rang mondial, mais sur les seuls résultats de cette année 2026, il est numéro 6, juste devant Novak Djokovic. Autant dire que s'il maintient le rythme, il sera le 13e français à atteindre le top 10. Reste à savoir quand.
Puis en Ligue 1, le PSG, premier du classement, a perdu hier face à l'OL. Les Lyonnais se sont imposés 2-0 au Parc des Princes en clôture de la 30e journée. Le quintet, pour finir, oui, il se déroule sur l'hippodrome de Fontainebleau à 13h55. Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori est le numéro 5, Dalakir. Leur outsider est le numéro 14, Mia Julia.
C'était le journal de Solène Gardré. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les aides de l'État entrent en vigueur aujourd'hui et il y a de nombreuses réactions, notamment sur le WhatsApp de l'émission, Mathieu.
Oui, évidemment, au 06 12 424 424, la question du prix des carburants toujours, des particuliers et des professionnels ce matin, des particuliers parce que vous le mesurez, vous le constatez et souvent le week-end vous avez un peu plus fait le plein, une baisse de 5 centimes à peine, on se fout de nous dit Greg. Il y a des gens qu'on aide, ils pensent aux entreprises justement, on va en parler, mais ce sont les taxes qu'il faut baisser et pour tout le monde, nous dit Greg ce matin. J'attends d'être sur le premier trait rouge de la jauge à l'écran pour pouvoir refaire le plein et encore, je mets juste 20 euros et je roule très peu. On a Demis qui lui est professionnel du transport, dans le transport sanitaire, 70 euros par ambulance, ça c'est l'aide de l'État débloquée à partir d'aujourd'hui pour les ambulances hors taxi pour le transport sanitaire. C'est ce que je mets pour une journée, c'est une énorme blague, 70 euros. Pour info, le surcoût pour le mois de mars avec 20 véhicules, c'est 8000 euros, nous dit Demis ce matin sur le WhatsApp RMC où vous continuez à apporter votre témoignage au 06 12 424 424.
Et justement, face à l'augmentation des prix du carburant, de plus en plus de Français veulent passer à l'électrique. Au fond, est-ce que la guerre en Iran n'est pas un accélérateur donc, de ces choix de l'électrique? Le nombre de ventes de voitures augmente, les demandes d'installation de bornes chez soi augmentent aussi. Voilà une enquête RMC ce matin. Bonjour Clément Molison.
Bonjour.
Merci d'avoir choisi RMC ce matin pour présenter les acteurs de l'électrique en France. Est-ce qu'on est face à un tournant? Je vous pose la question dans un instant, 7h38.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h41, très belle journée à tous sur RMC. La voiture électrique est en train de s'imposer en France. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il semble s'accélérer avec la crise au Moyen-Orient. Sommes-nous face à un tournant, voire même un déclic? Bonjour Clément Molison.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général d'Aver France, qui regroupe les acteurs de l'électrique en France. RMC a mené l'enquête et a découvert que les demandes d'installation de bornes électriques a bondi, multiplié par deux chez certains acteurs du domaine, et notamment dans l'immobilier. C'est un signe, ça?
Oui, tout complètement. Sur la copropriété, sur le résidentiel collectif notamment, depuis le début du conflit, depuis début mars, on voit que les demandes, elles augmentent. Pour toutes les copros qui ont déjà fait la démarche de prééquiper leur parking, les demandes d'installation individuelle sont en train de grandir.
Est-ce que c'est facile d'installer des bornes chez soi quand on est dans un immeuble?
Ça l'est de plus en plus, et aujourd'hui toutes les solutions existent. Il y a plusieurs solutions techniques, il y a aussi des accompagnements financiers qui permettent un reste à charge nul pour la copropriété. C'est-à-dire que c'est uniquement les utilisateurs qui payent. Ça évite de faire payer le voisin, ça débloque pas mal de situations.
On est passé d'une prise de conscience, on a l'impression, écologiste. C'est-à-dire que les premiers à avoir fait le pas de l'électrique, c'était parfois pour des raisons plutôt écologiques. Aujourd'hui, il y a à la fois la question économique et puis la peur d'une dépendance trop grande vis-à-vis des hydrocarbures, voire même la peur de la pénurie. C'est aussi ça qui crée le déclic?
Je vous rejoins tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette prise de conscience de nos dépendances aux hydrocarbures qui est peut-être la leçon à retenir. Sébastien Lecornu, dans son discours sur le plan d'électrification, l'a bien dit. Importer du gaz et du pétrole, c'est importer les crises des autres. Et donc, il faut faire en sorte d'électrifier notre pays pour le rendre le plus indépendant possible. Et on a un certain nombre de Français qui ont déjà bien identifié cette solution-là.
Les ventes de véhicules électriques neufs ont égalé leur record historique. 28% des véhicules qui ont été vendus en mars étaient des véhicules électriques.
Tout à fait. Si on rajoute les hybrides rechargeables, c'est un véhicule sur trois au mois de mars. Sur les seuls véhicules électriques, c'est 55 000 véhicules. C'est 8 000 de plus qu'en décembre dernier, qui était déjà le précédent record.
Et puis alors, du côté de l'occasion, là, ça bondit, plus 47% sur un an, parce qu'aussi, avant, il y avait moins de véhicules d'occasion électriques sur le marché.
Il y avait moins de véhicules électriques d'occasion, et puis on sait qu'aujourd'hui, les ménages les plus exposés, ce sont des personnes qui achètent des voitures d'occasion. 6 Français sur 7 se fournissent sur le marché de l'occasion, donc c'est là où on va avoir et la vraie démocratisation et surtout les gens qui vont être les plus menacés par la crise actuelle.
Je voudrais justement qu'on puisse accueillir le témoignage de Thierry. Thierry qui nous appelle de La Rochefoucauld en Charente. Bonjour Thierry.
Bonjour Apolline, bonjour.
Vous avez franchi le pas? Vous aviez hésité?
Alors oui, alors moi en plus j'étais contre l'électrique. J'habite en ruralité, donc j'avais tout mis en négatif. Et on a franchi le pas en septembre. On a acheté une petite Dacia Spring d'occasion.
Oui.
Et ben, on est passé de 260 euros de gasoil par mois à 60 euros d'électricité.
Ah oui, donc effectivement... Pour nos
usages quotidiens, on fait 90 km par jour. Et du coup, je vous ai coupé, Apolline, désolé.
Allez-y.
On franchit la deuxième marche parce qu'on va vendre notre voiture familiale pour aller acheter une voiture familiale électrique.
Ah donc vous aviez gardé quand même. Et on a remarqué, hein, souvent ça se fait comme ça. C'est-à-dire au début, on n'ose pas forcément y aller à 100%. Et là, vous n'avez plus d'hésitation, y compris pour la familiale, c'est-à-dire y compris pour des trajets plus grands.
Complètement, parce qu'en plus, il n'y a pas besoin d'installation spécifique à la maison. J'ai pas de borne spécifique, j'ai une prise classique sur mon compteur, donc je mettrai juste plus longtemps. Mais l'économie est réelle, et puis l'usage, et puis la conduite, et puis tout, quoi. Je veux dire, voilà, moi, je suis convaincu. Donc j'étais un anti qui est convaincu désormais.
Et pourquoi vous étiez anti, Thierry?
Parce que j'écoute tout ce qu'on dit, parce que quand vous voulez piquer un chien, vous dites qu'il a la rage. J'habite en ruralité, et la voiture, on peut même pas faire 10 km, et comment je vais faire pour recharger? Puis en fait, on se met plein d'obstacles, et puis les obstacles, on les enlève les uns après les autres, on se met devant un ordinateur, on calcule tout. Et puis voilà, et puis là, pour vous dire, on est passé de 4 années pour amortir l'achat à 2,6 ans avec l'augmentation du gasoil. On a quasiment divisé par deux la
pompe. Oui, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand vous regardez les prix à la pompe, vous vous dites que vous avez bien fait, quoi.
Ah, mais je ne regarde pas.
Oui, vous ne regardez même plus. C'est vrai, vous ne regardez même plus.
Parce que mon prix électrique, il n'a pas bougé, moi, il ne bouge pas, moi.
Elle vous a coûté combien, la Dacia Spring d'occasion?
7 900 euros.
Thierry, restez avec nous. Ça, c'est vraiment typiquement le nouvel acheteur français de l'électrique. Thierry.
Complètement. C'est j'achète pour mon deuxième véhicule une petite électrique et puis j'en suis convaincu et je passe aussi le véhicule principal en électrique. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Les déçus sont très peu nombreux. Le taux de satisfaction de l'électrique, c'est 93%. On voit un taux d'adoption qui est extrêmement fort. Et sur le marché de l'occasion, on on travaille beaucoup avec notre partenaire La Centrale, qui a un marketplace de l'occasion. C'est plus 180, je crois, % de recherche sur le véhicule électrique sur le mois de mars. Et donc voilà, on voit que ça se développe énormément.
Thierry, vous êtes resté avec nous. On va voir si vous arrivez à convaincre Raphaël, qui lui nous appelle de la Loire. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Raphaël, vous êtes cuisinier. Je crois que vous travaillez dans un EHPAD et que vous faites 50 km chaque jour. Quoi ? Ça veut dire 25 allers, 25 retours ?
Ouais, tout à fait, c'est exactement ça.
Et alors là, vous en êtes à combien d'essence ?
Bah écoutez, sur un plein qui me coûtait environ 60 à 65 euros, on est passé largement à 80-85 euros.
Ah oui. Donc par jour, vous avez calculé combien ça vous faisait en plus ?
J'ai pas calculé exactement, mais c'est vrai que il faut ça surtout regarder d'aller au boulot.
Est-ce que vous pourriez passer à l'électrique, Raphaël ? Ben, qu'est-ce qui vous retient de passer à l'électrique ?
Le tarif. Tout simplement, les prix. Moi, je vois depuis le début d'année, donc je travaille en EHPAD, j'avais demandé de pouvoir avoir une augmentation. On m'a augmenté de 8 euros. Vous avez vu les prix de l'essence, combien ils ont augmenté ?
Raphaël, oui. la meilleure personne peut-être pour essayer de vous convaincre, c'est Thierry. Thierry, vous pouvez vous adresser directement à Raphaël. Votre expérience, qu'est-ce que vous lui dites ?
Bonjour Raphaël, bah, loin de moi de vouloir le convaincre, mais je suis, si m'a entendu, j'étais exactement comme lui. Et franchement, Raphaël, 7900 euros, on n'a rien sur le marché. Donc moi, j'ai une petite électrique et tous les jours, on fait 90 km. Et ça me coûte moins de 2,50 € par jour.
Ouais, Raphaël. Et nous à la maison, on avait deux véhicules, vu qu'on travaille tous les deux. Je suis déjà passé en leasing avec une, pas parfois,
ouais, mais
pas
plus,
parce que le problème, c'est que le garage, nous, on est obligé d'avoir des pneus neige en temps d'hiver, parce que on est montagne. Ça nous coûte déjà très cher au niveau des pneus. Les garages, ne serait-ce que pour faire une vidange à l'heure actuelle, ça fait partie des choses. Je ne comprends pas que ce soit des professionnels, qu'il n'y ait pas des tarifs qui soient bloqués. Moi, j'aimerais bien, vraiment, quand je vois que je peux même pas partir en vacances, j'ai pas fait de grandes études, mais je travaille tous les jours, je peux pas partir en vacances comme je veux, et c'est vrai que le véhicule, j'aimerais le changer, réellement, j'aimerais le changer, mais quand vous avez des salaires qui sont de 1800 euros, alors vous travaillez les week-ends, malheureusement, j'ai une petite C3 qui a déjà plus de 12 ans, et que je suis obligé de garder, alors que j'aimerais vraiment pouvoir passer à l'électrique, parce que je rentre parfaitement dans le cas de celui qui pourrait avoir une petite électrique. Quoi.
Vous seriez, en fait, avec la Dacia de Thierry, en effet, assez vite, vous feriez des économies, mais enfin, ça reste une somme à sortir. Thierry et Raphaël, merci à tous les deux d'être intervenus, et je trouve vraiment intéressant quand on peut vous mettre en relation, en quelque sorte, et qu'on puisse comparer vos deux situations. Clément Molison, les bornes de recharge, aujourd'hui, parce qu'on a parlé des bornes de recharge chez soi, il y a désormais la question aussi des bornes de recharge sur le chemin, sur le trajet, quand on voit que Thierry, il veut passer à l'électrique, y compris pour la familiale, c'est-à-dire pour la voiture qui leur permet de partir en vacances. Est-ce que vraiment, désormais, quand on part, on peut être sûr de faire un long trajet ?
Bien sûr, aujourd'hui on est à plus de 192 000 points de recharge sur tout le territoire, donc on approche du palier des 200 000. L'ensemble de nos autoroutes sont équipées depuis l'été 2023 et on a des acteurs du réseau autoroutier qui renforcent leur réseau avant les périodes de estivales notamment.
L'aide de l'État, les aides de l'État. Vous mentionniez le discours de Sébastien Lecornu sur l'électrification de la France. Quand on entend typiquement le discours de Thierry, de Raphaël, Raphaël, il dit mais moi je veux bien passer à l'électrique, mais il me faut une aide à l'achat. Est-ce que ça, vous estimez que c'est à la hauteur ?
Bien sûr, je pense que Raphaël, il rentrera typiquement dans le cadre des bénéficiaires potentiels du leasing social, qui a été annoncé pour juin, qui a priori devrait être là plutôt au mois de juillet. Ce sera sa troisième édition, ça fait déjà 100 000 bénéficiaires depuis deux ans. Il y a d'autres aides qui existent, notamment le bonus, où on peut aller jusqu'à 7 000 euros, c'est quand même des sommes qui sont importantes. Et ensuite, il faut surtout préparer l'avenir. Là, on a des mesures de court terme qui sont importantes, mais il faut faire en sorte d'avoir de plus en plus de voitures. On a beaucoup parlé de 2035, nous, et donc de la fin de vente des véhicules thermiques. Nous, on espère que la France, elle changera sa position et qu'elle va continuer à soutenir le maintien de cette
disposition. Parce qu'aujourd'hui, cette date, elle est effectivement plutôt suspendue.
Elle est discutée. Aujourd'hui, c'est 3 à 6 millions de véhicules électriques en moins d'ici 2035 si on adopte des mesures de flexibilité. Bah, tout ça, c'est des voitures en moins sur le marché de l'occasion pour Raphaël.
Merci beaucoup Clément Molison, délégué général d'Aver France. Vous représentez donc les acteurs de l'électrique en France. Et un merci tout particulier à Thierry et à Raphaël pour leur témoignage. Il est 7h50. compte. Louis Sarkozy est rentré dans ce studio. Bonjour Louis.
Bonjour.
Vous êtes la voix de droite d'RMC et c'est lundi. Vous allez nous le dire dans un instant. Jordan Bardella et le RN vont tenter de séduire les patrons. Déjeuner avec le MEDEF, oui, organisé aujourd'hui. Pour vous, c'est de la poudre aux yeux, c'est-à-dire?
Oui, le Rassemblement National est un parti socialiste qui a la particularité d'être régalien. Travailler moins, taxer plus, c'est un beau programme qui nous mène directement dans le mur.
Vous nous le dites dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
7h52 dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus, Mathieu, avec du nouveau côté 007.
James Bond est de retour en jeu vidéo, en attendant de relancer la franchise au cinéma sur les consoles qu'on va le retrouver. Mais vous allez peut-être découvrir au mois de mai, qui dit nouveau 007 dit nouvelle bande originale. Et c'est Lana Del Rey qui est au micro, l'américaine qui chantait Video Games il y a quelques années. De bout en bout, ça ressemble à du Bond. Univers mélancolique, orchestration classique. Même pour du gaming, Bond reste Bond. Lana Del Rey a même écrit avec un compositeur classique de la franchise. Et l'idée, c'est précisément d'attirer les fans de Bond vers le jeu vidéo First Light. Ça sort le 27 mai. Vous achetez, ça faisait 10 ans qu'aucun jeu inspiré du célèbre espion de Sa Majesté n'avait vu le jour. Le 27 mai sur les PC, PlayStation et Xbox.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est lundi et tous les lundis, c'est la voix de droite sur RMC. Louis Sarkozy, bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Opération séduction du RN auprès des patrons. Marine Le Pen avait déjà déjeuné avec certains d'entre eux. Et aujourd'hui, c'est Jordan Bardella qui déjeune avec les dirigeants du MEDEF. On l'apprend ce matin, le RN a écrit aux dirigeants d'entreprise pour identifier les freins de l'économie. Sauf que pour vous, Louis, il faut rappeler que le Rassemblement National a un programme économique, quoi, socialiste, c'est ça que vous m'avez fait dire?
Parfaitement socialiste. Si ce n'est presque communiste. Maurice Druon avait l'habitude de dire qu'en France, il existe deux partis de gauche dont l'un s'appelle par convention la droite. Le programme économique du Rassemblement National a un nom, le socialisme. Il a une couleur, le rouge, et il aura un résultat, l'enlisement, la décroissance, la catastrophe. En somme, tout ce que la France s'obstine à faire depuis des décennies à tort.
Vous n'exagérez pas un petit peu quand même?
Non, c'est pas du tout mon style.
Non, pas votre genre, Louis.
Qu'appelez-vous le retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, Apolline? Et même à 60 pour les carrières longues, alors même que notre démographie s'effondre et que nous sommes déjà parmi les peuples qui travaillent le moins. Jordan Bardella s'inscrit ici dans la parfaite lignée de la CGT et du Parti Socialiste. Ce parti ment aux Français en leur faisant croire que l'on peut travailler moins. C'est bien évidemment faux et c'est un mensonge qui peut nous coûter très cher.
Sur la fiscalité, que propose le RN?
Taxation des super profits des énergéticiens, taxe sur le rachat d'actions, taxe sur les dividendes exceptionnels, remplacement de l'IFI par un impôt sur la fortune financière, autrement dit le retour déguisé de l'ISF sur les actifs financiers. C'est parfaitement les thèses de l'économiste de gauche Thomas Piketty. Il cible le capital, surtaxe la réussite et prône une fiscalité encore plus écrasante, alors même que la France réclame exactement l'inverse.
Vous voyez des incohérences avec leur discours très à droite sur d'autres points? C'est-à-dire quoi? Ce serait économiquement de gauche et sur le reste très à droite?
Mais exactement, le Rassemblement National, c'est une contradiction permanente, c'est un oxymore. Jordan Bardella déclare en novembre 2024 qu'il faut revenir sur les 35 heures. Pourtant, les trois sénateurs RN ont voté contre la proposition de loi de fin 2024 visant à créer 7 heures de travail supplémentaires. Bardella affirme en février 2024 être parfaitement d'accord avec la réforme de Macron conditionnant le RSA à 15 heures d'activité. Pourtant, ses députés votent contre à l'Assemblée. C'est Patrick Martin, le président du MEDEF lui-même, qui le dit en avouant être incapable de dire quelle est la vraie doctrine économique du Rassemblement National.
Bon, alors,
personne
ne
sait.
Encore d'ailleurs une nouveauté ce matin, puisque on apprend que le RN a écrit au chef d'entreprise et qu'il promet de lever les normes qui freinent l'économie française.
Oui, bien sûr, bien sûr. Des mots. On attend les actes, on attend les votes. Le mal français a un nom, Apolline. La fiscalité. Les normes écrasantes, l'obésité de l'État. Le RN lui propose davantage d'impôts. C'est un parti étatiste, un parti redistributif qui ne croit ni à l'allègement de l'État, ni à la liberté économique. Et quand on demande à Marine Le Pen s'il y a trop de fonctionnaires en France, elle répond « Ah non, ça, laissez-moi tranquille, c'est des trucs de droite ». En réalité, ce parti ne répond à rien, sinon aux attentes d'un électorat anciennement de gauche qu'ils veulent à tout prix conserver pour accéder enfin au pouvoir.
Donc vous, le libéral Louis Sarkozy, vous vous dites que le RN au pouvoir en 2027 serait une catastrophe,
hein? Alors déjà, j'ai du mal à croire qu'ils survivent à une élection présidentielle avec autant d'incohérence dans leur programme. Ce parti est unidimensionnel. L'immigration, un peu de régalien, et c'est tout. Mirabeau disait de la Prusse, la Prusse n'est pas un État qui a une armée, c'est une armée qui a un État. La formule s'applique trait pour trait au Rassemblement National. Tous les partis ont une politique migratoire. Le RN, c'est une politique migratoire qui s'est trouvée un parti. Le reste du programme, c'est du remplissage, et un remplissage, je pense, qui ne passera pas le second tour de l'élection présidentielle.
Vous comparez le RN à la Prusse.
Oui, à sa grande défaveur, d'ailleurs.
Louis Sarkozy, on l'a bien compris. Louis Sarkozy, merci en tout cas ce matin, la voix de droite. Demain, comme tous les mardis, ce sera la voix de gauche à votre place. Cécile Duflo, il est 7h57. Dans un instant, le journal de 8h. À la une, c'est les distributeurs de carburant. Encore convoqués à Bercy, le gouvernement qui continue à faire pression sur leur marge. Juste après le journal, ce sera l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, est-ce que c'est le retour de l'inflation ?
Eh bien, je vais vous expliquer semaine après semaine le calendrier des hausses de prix qui nous attendent.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h57. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h59 et il fait beau, Anthony.
Oui, mais les températures sont très contrastées entre le nord et le sud. Dans le ciel, c'est vrai, souvent du soleil. Pas un ciel tout bleu, hein. Il y aura quelques nuages entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Un voile de nuages parfois épais entre la Bretagne, le centre-Val de Loire et le nord des Alpes. Déjà quelques orages ce matin vers les Landes et on va retrouver dans l'après-midi ce risque orageux uniquement en montagne, sur les Pyrénées, le Massif central, le sud des Alpes et le relief corse. Et donc cette fraîcheur au nord, notamment ce matin, 3 degrés seulement à Reims, 6 à Strasbourg. Et en cours d'après-midi, entre 13 et 20 degrés sur la moitié nord, 17 pour Paris et 20 à 26 degrés quand même sur la moitié sud. Là, c'est presque estival. 26 degrés pour Bordeaux et pour Toulouse.
Il est 8h. Merci d'avoir choisi RMC. Très bon lundi à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les cours du pétrole qui repartent à la hausse ce lundi matin. Réaction immédiate aux nouvelles tensions au Moyen-Orient. On va revenir dessus alors que les distributeurs sont à nouveau convoqués à Bercy aujourd'hui. Vous allez voir que le RN poursuit son opération séduction. On va en reparler en envoyant donc une lettre au patron ce matin. Et aussi, tiens, que Victor Wembanyama a été énorme cette nuit pour le tout premier match de play-off de sa carrière en NBA.
On ne les compte plus. Énième réunion sur les prix du carburant aujourd'hui à Bercy.
Des prix qui ont baissé, il faut le dire quand même, depuis une semaine. C'est ce que nous montrent les relevés du site carbu.com. Mais en fait, Thomas Becker du service politique à RMC, le gouvernement fait pression pour que ça baisse encore plus.
Oui, parce qu'à Bercy, toutes les marges des distributeurs sont surveillées et les courbes montrent que certains pratiquent un comportement non vertueux, explique un conseiller de Bercy. La majorité des distributeurs jouent le jeu, assure-t-il, avec des marges très faibles, parfois quelques centimes, mais d'autres profitent de la volatilité des cours pour ne pas répercuter les baisses à la pompe. C'est pour ça que le gouvernement garde dans sa manche son décret de plafonnement des marges. Un conseiller gouvernemental assure que le décret est désormais opérationnel, prêt à être dégainé, je cite, si le gouvernement constate que les effets d'aubaine sont généralisés, pointés du doigt, les distributeurs estiment que leurs marges couvrent à peine leurs coûts d'exploitation.
Et le constat, eh bien, c'est qu'on change nos habitudes comme une barrière psychologique, en fait. On met toujours le même montant au moment de faire le plein, une cinquantaine d'euros. Mais vu que ça coûte plus cher, tout ça est mathématique, eh bien, on en met moins et on va plus souvent à la pompe. Les passages en hausse de 16% sur un an en mars, d'après le site de transactions bancaires Joco. La preuve, écoutez avec Arthur Guillamot et Lucas Lobert pour RMC.
Les yeux rivés sur l'écran de la pompe à essence, José repose vite le pistolet. Il est loin d'avoir rempli son réservoir.
Là, moi, j'ai mis quoi? J'ai mis 10, hein? Je mets 10 là.
Le jeune homme préfère venir plus souvent à la pompe, une manière d'étaler les paiements.
Je vais faire que des petites dépenses d'essence en général. Ça coûte trop cher là en ce moment.
Même technique pour Sarah qui vient souvent faire des petits pleins. Son réservoir ne dépasse jamais la moitié.
On préfère qu'on voit 15-20 euros et pour nous c'est bon, ok. Et qu'un gros chiffre, ça fait moins mal.
Yu, lui, se dépêche de venir faire son plein de peur que les prix n'augmentent à nouveau.
Là, il y a 1,95. Quand j'entends qu'il y a tel prix à tel endroit et que c'est un bon prix, on y va avant que ça change.
Et puis depuis le début de cette crise énergétique, il y a ceux comme Othman qui veulent avoir leur réservoir plein en permanence.
Je préfère avoir le plein, on ne sait jamais, en cas de nécessité, mais je ne roule pas comme avant.
Donc vous remplissez votre voiture et vous la laissez au garage, quoi.
Voilà, au parking, on ne sait jamais.
En attendant, il prend les transports en commun jusqu'à ce que les prix redeviennent raisonnables.
Alors ce matin, à ce sujet, eh bien, les cours du pétrole remontent sur les marchés. Avec les derniers événements au Moyen-Orient, Romain Houk pour RMC, à savoir l'Iran, qui ne veut pas reprendre les discussions qui étaient prévues avec les États-Unis.
Oui, la délégation américaine menée par le vice-président J.D. Vance est attendue ce soir à Islamabad, au Pakistan, pour un nouveau round de négociations avec l'Iran. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ces négociations paraissent pour l'heure mal embarqué. D'abord parce que Téhéran refuse de discuter, dit-on cette nuit à la télévision iranienne, si les États-Unis ne lèvent pas leur blocus dans le détroit d'Ormuz. Blocus qui a justement tenté de franchir un porte-conteneurs iranien cette nuit. Il a été ciblé par deux tirs de l'US Navy qui en ont pris le contrôle. L'armée iranienne a prévenu qu'elle répondrait sous peu, je cite, à ce braquage maritime. De fortes tensions tout le week-end dans le détroit d'Ormuz. Samedi, ce sont plusieurs navires commerciaux qui ont été visés par des tirs iraniens cette fois. Parmi eux se trouvait un bâtiment de la CMA-CGM, armateur français propriétaire d'RMC. Le cargo a dû faire demi-tour. Donald Trump, de son côté, s'impatiente et menace. Il promet de détruire toutes les centrales électriques du pays si l'Iran ne s'assied pas à la table des négociations.
Et voilà dans quel contexte un conseil de défense va commencer là à 8h30 tout à l'heure, donc à l'Elysée, présidé par Emmanuel Macron, qui se rendra ensuite en Pologne pour un déplacement consacré à la dissuasion nucléaire. Pendant ce temps, en France, c'est la présidentielle de 2027 qui se prépare. Les Républicains ont désigné leur patron Bruno Retailleau comme candidat à presque 74% sans passer par la case primaire. C'est toute la nuance, c'était un vote interne. Et le RN continue donc son opération séduction, même normalisation auprès des patrons en multipliant les déjeuners là depuis quelques semaines avec les dirigeants des grandes entreprises, Marine Le Pen récemment, Jordan Bardella encore aujourd'hui avec le MEDEF. Gladys Laffitte pour RMC, avec les informations de BFM TV, le RN écrit même une lettre aux patrons ce matin.
Ah oui, pour draguer les patrons, le RN propose dans cette lettre un grand projet de simplification pour lever les verrous, les normes qui freinent le développement économique de la France. Et pour l'appliquer, le RN passerait par ordonnance dès le début du futur mandat présidentiel. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont demandé à trois de leurs proches de rencontrer les patrons pour identifier les leviers d'action. Ils se disent même à la disposition des organisations patronales pour échanger dans les meilleurs délais. Un conseiller de Marine Le Pen jure que le RN ne prend pas un tournant libéral, mais je cite, veut aller chercher les 8% d'électeurs qui manquent pour la victoire. Mais la digue ne cède pas totalement. Le patronat n'a pas massivement pris parti pour le RN et ses idées eurosceptiques, se défend le président du MEDEF, Patrick Martin.
Le MEDEF qui est dans une série de déjeuners avec les chefs de partis politiques, dont Édouard Philippe cette semaine. Tiens, puisqu'on parle de ça, d'euroscepticisme, pardon, on se demande si après la Hongrie, la Bulgarie va devenir le nouveau caillou dans la chaussure de l'Union européenne. On est au lendemain d'élections législatives remportées en Bulgarie à quasiment 38% par le parti d'extrême droite de l'ancien président aux idées pro-russes. La politique, c'est aussi le sort des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Romain Cluzel, du service politique à RMC. Il y a débat, on le sait, autour de l'organisation des épreuves sur glace dans la ville de Nice avec le nouveau maire Éric Ciotti, réticent. Il doit assister à une réunion aujourd'hui du comité d'organisation.
Et au cœur des tensions, l'Alliance Riviera. Pour l'instant, c'est dans ce stade de foot que les épreuves de hockey sur glace sont prévues. Sauf que pour cela, il faudra installer, puis désinstaller une patinoire dans l'enceinte de l'OGC Nice et obliger les Aiglons à changer de nid pendant plusieurs mois, ce que refuse catégoriquement Éric Ciotti. D'abord parce que le nouveau maire de Nice considère que la transformation du stade en patinoire est un gouffre financier et parce que le président de l'OGC Nice est l'un de ses plus proches soutiens. Sur ce dossier, aucun camp ne semble vouloir céder, à tel point qu'une autre ville est désormais envisagée pour accueillir les épreuves de hockey, Lyon. Le maire écologiste Grégory Doucet se dit prêt à cette éventualité, ce qui offrirait aux organisateurs des JO une solution rapide face aux tergiversations niçoises.
Bon, il est 8h07, on n'en parle pas tous les matins, mais aujourd'hui ça vaut le coup. Victor Wembanyama a disputé aux États-Unis cette nuit le tout premier match de play-off de sa carrière avec les Spurs de San Antonio, qui ont gagné d'ailleurs. On va voir ça avec vous, Antoine Salva. Vous avez suivi ce match pour RMC. Vous nous dites que Wemby a été excellent.
Et oui, devant les fans des Spurs, le Français de 22 ans a livré une prestation digne de son statut de candidat au titre de meilleur joueur et meilleur défenseur de la saison régulière. Deux ans et demi après son arrivée en NBA dans le costume de numéro 1 de la draft, puis une deuxième saison tronquée par une blessure à l'épaule, Victor Wembanyama a pris les choses en main pour ses premiers playoffs face à Portland. 35 points, 5 rebonds, une passe et deux contres compilés en 33 minutes pour un succès de San Antonio 111 à 98. Titré à 5 reprises, la franchise texane, privée de playoffs depuis 2019, mène 1-0 dans ce premier tour de la Conférence Ouest au meilleur des 7 matchs. À San Antonio, on comptera de nouveau sur un grand Wemby lors de la deuxième manche programmée dans la nuit de mardi à mercredi.
Alors ce matin, c'est pas Wemby, c'est le joueur de tennis Arthur Fils qui fait la une du journal L'Équipe et qui redevient numéro 1 français d'ailleurs au passage. On est au lendemain de sa victoire au tournoi de Barcelone sur terre battue après 6 mois d'absence pour une blessure au dos de bon augure avant Roland-Garros dans un mois. Tiens, et pour une fois, il y a du suspense en Ligue 1 de football. Lens a un seul point de retard sur le leader Paris qui a été battu par Lyon 2-1 hier soir. Ça se passait au Parc des Princes, 5e défaite de la saison pour les Parisiens qui ont un match en moins. Mais les deux, Lens et Paris, doivent encore s'affronter. Sujet tout trouvé hein, ce soir pour l'after qui sera en direct de La Bège. C'est à côté de Toulouse de 22h à minuit sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel, le chiffre, est-ce qu'il faut craindre un retour de l'inflation dans les magasins et de quelle ampleur?
Alors, pour le moment, on a tous senti directement que la hausse des prix des carburants. Sinon, pour le reste, la hausse des prix, elle n'est pas encore parvenue dans les magasins. Pour le moment, elle est perceptible dans les usines et dans les fermes. Parce que ces usines et ces fermes consomment de l'énergie devenue plus chère, parce qu'elles ont besoin de produits dont les prix flambent avec le blocage du détroit d'Hormuz. On parle de l'hélium, de l'aluminium, du soufre, de l'ammoniac, qui, en plus du pétrole et du gaz, augmentent les coûts des emballages, des engrais, des composants électroniques, des produits chimiques. À ce stade, les industriels et les agriculteurs constatent des hausses de 5 à 8% sur un an de leurs coûts d'approvisionnement. C'est aussi rapide qu'au cours des premières semaines de la guerre en Ukraine, mais il n'empêche qu'au final, les industriels notamment anticipent un choc deux fois moins violent que cette guerre en Ukraine.
Alors si on regarde très concrètement dans les rayons, ça va donner quoi ?
Alors, la guerre en Iran, elle a commencé alors que se clôturaient les négociations commerciales sur des hausses modérées de 1% à peu près. Ça laisse quelques semaines de répit dans les rayons avant que se déclenchent les clauses de révision. Par ailleurs, la hausse des prix agricoles sera, elle, tout de suite répercutée conformément à la loi Egalim. Quand on regarde un petit peu le calendrier des hausses de prix qui nous attendent, on a les hausses les plus rapides qui concerneront les produits frais ou à péremption assez courte. On pense aux produits de la pêche, on pense à tous les produits laitiers. Lactalis a déjà dit que ses prix allaient augmenter. Il y a aussi les fruits et légumes, et particulièrement ceux qui sont importés à cause de la hausse du kérosène, à cause des coûts d'emballage. Donc, il va falloir acheter français si vous voulez préserver votre pouvoir d'achat. Et puis il y aura ensuite les produits d'hygiène beauté, ça ce sera sans doute aux alentours de l'été parce que le
vous
pétrole
avez vraiment le calendrier des hausses de prix quoi.
Exactement. Je vous dis et j'ai pas fini, vous allez voir. Et puis après il y aura les produits alimentaires de longue conservation, le riz, les pâtes, le sucre, sans doute pas avant la fin de l'été, le début de l'automne. Pourquoi ? Parce que là on est encore pour ces produits sur des prix qui ont été négociés pendant que les récoltes étaient très bonnes. Donc ça, on est tranquille jusqu'à la fin de l'été. Alors, à l'automne, ça devrait se gâter, mais j'ai une bonne nouvelle pour l'automne. Figurez-vous que comme les prix du café et du chocolat se sont effondrés sur les marchés mondiaux, on devrait commencer à en percevoir les effets bénéfiques.
Donc, allez, une petite sucrerie pour se consoler. C'est ça, on se désolera des prix du poisson et des fruits et légumes, mais on pourra manger du café.
Et au final, 4 à 5% de hausse des prix dans la distribution sont dans les tuyaux, nous dit UFC Que Choisir.
Et puis chaque jour sur RMC, le journal des prix du jour de l'énergie, ça monte ou ça descend ?
Bah nos carburants, ça descend plutôt. Hein. 2,18 le litre de gazole contre 2,27 il y a une semaine, donc là c'est quand même assez sensible. Pareil, le sans-plomb 95, hein, vous savez que la semaine dernière on était scotché autour des 1,99, là on est proche de la barre des 1,95. Alors le pétrole, on est toujours dans cette fourchette entre 90 et 100 dollars avec des volatilités qui atteignent 10 dollars le baril par jour en fonction des déclarations des uns des autres. Là, on est à 95,3. Et puis sur le gaz, bon, on a une petite tension depuis la fin du week-end, mais après deux semaines quand même de baisse, donc on est à 41 euros. Le mégawattheure, ça reste raisonnable.
Merci Emmanuel, il est 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et puis sur RMC, on voudrait partager avec vous les nombreuses réactions sur l'électrique, la voiture électrique. Est-ce qu'on n'est pas à un tournant, Mathieu ?
Oui, alors il y a encore les sceptiques. Hein. Alex nous dit, je suis impatient de voir tout le monde à l'électrique et surtout de voir que le gouvernement, qui nous prend quand même pour des pigeons, ne va pas s'asseoir sur les milliards que rapportent les taxes sur le carburant. Alex qui imagine une taxation à venir, soit sur le kilométrage, soit sur l'électricité. Pour l'instant, on n'en est pas là. Greg nous dit, une voiture électrique à plus de 20 000 euros. Qui est-ce qui va se la payer si on ne peut pas tous se le permettre ? On n'a pas tous les moyens, nous dit Greg. Johan, lui, témoigne, nous avons deux voitures électriques et donc nous ne dépendons plus du pétrole. Nous avions déjà arrêté de dépendre du gaz il y a 8 ans. Nous en sommes très heureux aujourd'hui. Voilà ce que dit Johan parmi les messages que l'on reçoit sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Et dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint évidemment comme chaque matin à 8h30 le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la poursuite du conflit en Moyen-Orient ? Quelles conséquences sur le carburant, mais plus globalement sur les prix ? Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Puis juste après, sur RMC, ce sera le meilleur de Nicolas Canteloup. Rendez-vous comme tous les jours avec Nicolas Canteloup à 8h50. Il est 8h13, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, tous les jours de manche.
8h15, et comme tous les jours, il est avec nous, Arnaud de Manche. Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour, merci Apolline de ce magnifique lancement, c'est très français. Apolline et moi, nous sommes français. Et en France, les amis, on ne fait pas la guerre pour du pétrole ou de l'uranium. Non, en France, la guerre est plus sophistiquée, plus noble. La guerre, elle est aux éditions Grasset. Ah. Après le renvoi de l'éditeur Olivier Nora par Vincent Bolloré, on s'en fout de votre Détroit d'Ormuz et du prix de l'essence. Nous, c'est la littérature, notre carburant. C'est la France. La crise du sans-plomb chez nous, c'est quand il n'y a plus de livres chez Plomb. Voilà. On dit merci qui ? Merci Albin et Michel.
Oh non.
Alors, crise à Grasset. En une semaine, Grasset a perdu une centaine de ses plus gros vendeurs, Virginie Despentes, Frédéric Becbédé, Arthur, mais aussi dans un autre registre, BHL. Mais j'ai pas mis BHL dans la liste des gros vendeurs de livres, parce que, soyons honnêtes maintenant, vous avez déjà vu dans le métro quelqu'un lire un livre de BHL ? Bah non. Est-ce qu'un ami vous a déjà recommandé un livre de BHL ? Non plus. Est-ce que vous pouvez me citer le titre d'un livre de BHL ? Je vous écoute. Voilà, on est tous d'accord. J'ai checké sa fiche Wikipédia, il a écrit un truc en 15 volumes, personne ne le sait. Alors, qu'on se rassure, Vincent Bolloré est déjà en train de préparer les titres pour la prochaine rentrée littéraire chez Grasset, notamment le premier roman « Événement » de Jean-Marc Morandini, « Lolito ». Lolito, l'histoire d'un animateur aux dents blanches qui tombe follement amoureux d'un jeune stagiaire. Ouais, parce que dans ce roman, j'ai voulu toucher un public plus jeune. On sait, la culture française vous dit merci, monsieur Bolloré.
Arnaud, le conflit au Moyen-Orient continue.
Oui. Oh là là. Ah, oh, ouais, quelle histoire, hein. Et hein ?
Ouais.
Bah ouais.
Bah voilà.
Et ouais. Et ouais. Si vous cherchez un expert pour le 9h-10h, Apolline, je suis là.
Formidable.
Je suis dispo.
Formidable.
Non mais ça va être long jusqu'à juin de trouver des blagues tous les jours sur le même sujet. Et en plus, c'est une guerre, quoi. Mm. La vie était plus sympa quand on parlait du renflement brun de Bruno Le Maire. C'est le bon vieux temps. Bon, blague à part, le détroit d'Ormuz était ouvert vendredi. Trump annonçait fièrement « L'Iran a accepté de ne plus jamais fermer le détroit. Good people. » 3 heures plus tard, l'Iran fermait le détroit.
Voilà.
Good people. Pour protester contre le blocus américain, l'Iran ferme parce que les Américains ferment. Mmh. Voilà. C'est comme quand la CGT bloque une usine qui ferme.
Oui.
Ils arrêtent le patron, ils font « Vous rentrez pas, c'est fermé !»« Je sais, c'est moi qui ferme. » « Non, c'est nous !»« Non, c'est moi !»« Non, c'est nous !» Ok, et les ouvriers, c'est eux qui ferment. Non, pas comme ça. Bon, ouais, c'est très confus. Même la poste à côté de chez moi, elle est plus souvent ouverte que le détroit d'Ormuz.
Ah oui, c'est dingue.
Le détroit d'Ormuz, en ce moment, on dirait Christian Clavier dans Les Visiteurs. C'est ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert.
Mais c'est la rue. Les ampilles
allongent,
ça devient casse-pied.
Ouais, Trump, c'est casse-couille, la fripouille. Il a les méthodes médiévales et il panique en face des Sarrasins. C'est le même.
En plein conflit autour du travail du 1er mai, Sophie Binet veut faire du 8 mars un nouveau jour férié.
Oui, la secrétaire générale de la CGT propose un jour férié lors de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Alors, économiquement, on n'a peut-être pas les moyens de s'offrir ça. Je propose de couper la poire en deux. On ferait un jour où seuls les hommes travailleraient.
Ah ouais.
Ouais. Les femmes resteraient à la maison. Ça veut dire que le nombre de DRH qui vont débarquer dans les bureaux en disant « T'oublies pas Jean-Pierre, hein, demain Sylvie, elle bosse pas, mais toi t'es là. » Et le gars, il va répondre
« Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. »
Ouais, la cause trans va progresser à une vitesse. En tout cas, c'est l'occasion de se détendre avec un petit queer.
Oh
pardon, un petit quiz.
Ah oui.
Un petit quiz. Ce jour férié existe-t-il ou non ? À gagner, Apolline, un jour férié, un jour de congé de plus offert par notre direction. Attention, ce jour de congé existe-t-il ? C'est parti. Chaque 5 avril, les Taïwanais vont danser sur les tombes de leurs ancêtres.
Oh non.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est beau ça.
Les Texans ne vont pas travailler le jour du Cholesterol Day, puisque ce jour-là, ils meurent. Non,
tous
c'est
en groupe.
Chaque second dimanche d'août, le Turkménistan célèbre le melon.
Ah, oui, ah, oui, oui.
C'est vrai.
Ah,
c'est très mignon. Au Liban, on célèbre le 1er juin 2001.
chaque 1er juin, seule journée depuis 50 ans sans bombardement. Le 8 mai et le 11 novembre ne sont pas fériés en Suisse.
Bah c'est
vrai, c'est vrai. Ça leur apprendra à rester neutre.
Voilà. Bon,
au Dagestan, le 18 mars, c'est férié. C'est la journée du rat où on écrase des rats vivants en sautant.
Non, c'est fou, si. C'est pas possible.
Non, c'est
pas
possible.
Non, mais ça a l'air tellement typique. Le jour de la Saint-Étienne est férié en Islande.
Quoi?
Par solidarité avec les habitants de Saint-Étienne en France. Alors c'est faux, mais par contre, c'est vraiment férié. Dans la Sarthe, la Sainte-Apolline est fériée.
Et ben moi, je trouve que ce serait bien.
Ce serait bien. Moi, les couples se retrouvent dans leur cuisine et s'interrogent face à face pour faire le point sur leur relation. Chérie, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, première question, les Français s'interrogent. Ce SMS de Svetlana qui te dit « J'ai envie de toi », qu'est-ce que ça veut dire?
Écoutez, c'est une provocation russe. Poutine a infiltré mon téléphone et ça dure toute une journée. Et du coup, on ne peut pas aller au travail. Et du coup, la Sainte-Apolline est fermée. C'est une bonne idée, non?
C'est le 9 février.
Il faut le faire.
C'est le 9 février. Donc, férié désormais dans la Sarthe. Vous avez bien raison. Puis je trouve que c'est une belle thérapie de couple.
C'est un bon truc.
Le face-à-face.
Ça va bien se passer.
À un moment.
Le jour du ça va bien se passer.
Voilà, il faut s'exprimer. Il est 8h21, mais n'importe quoi. Cette émission part en...
Ouais, ça va, on a le droit.
Il est 8h21. Il y a Gérald qui est avec nous en direct, qui vit dans les Pyrénées-Orientales, à Bompas. Bonjour Gérald. Gérald, est-ce que vous m'entendez?
Oui. Oui,
je suis désolée, j'étais un petit peu dernières blagues d'Arnaud Demanche. mais je vous accueille. Vous vouliez parler des prix du carburant?
Ben oui, parce que je disais que je comprends plus rien. Alors je sais pas, peut-être que j'ai dû régresser intellectuellement parce que
je sens l'ironie.
Baril. Ah ben oui, parce qu'on est sur un prix du baril qui la semaine dernière était en dessous des 90 $.
Ouais.
Aujourd'hui, on nous annonce une once, mais il reste à 95. Mais pourtant, les prix à la pompe, ben, ils vont pas baisser. Et je pense même qu'ils vont profiter du fait de nous dire que ça a pris 8% pour nous remettre une petite couche, en fait. Donc, pour moi, le 2 € du litre, ça sera le minimum. Il faudra faire avec. Et je pense qu'on nous prend bien pour des imbéciles.
Au quotidien, vous faites quoi, vous? Comment vous faites? Comment vous débrouillez?
Maintenant, je m'adapte. Il faut que je prenne le train parce que je travaille un peu sur Montpellier. Donc, forcément, je prends le train. J'ai pu être logé chez la famille.
D'accord.
Donc, il faut s'adapter. C'est une adaptation de tous les jours.
Ah, vous avez vraiment changé votre organisation, vous?
Ah oui, carrément. À ce niveau-là, c'est plus du tout possible. J'avais appelé il n'y a pas longtemps parce que le prix, je parlais du prix en Espagne, à la pompe en Espagne.
Ouais.
Et donc, du coup... quand on va en Espagne, là, on est quand même à plus de 70 centimes. On est entre 60 et 70 centimes de différence. Alors, oui. Je veux bien entendre que la TVA a baissé, donc ce qui représente 10% de moins par rapport à la TVA française. Mais 10%, on est à de l'ordre de 15 centimes. Ça ne justifie pas non plus 70 centimes de différence, quoi. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a tout un système à revoir, à repenser.
Et comme vous le dites, effectivement, ce serait une sorte de table rase. Parce que si on est au jour le jour, je vous rappelle d'ailleurs que les distributeurs sont à nouveau convoqués à Bercy aujourd'hui pour leur mettre la pression. Merci beaucoup, Gérald, d'être intervenu au 32-16. Il est 8h23. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est l'ancien ministre de l'économie, justement, Thierry Breton, et ancien commissaire européen. Est-ce que c'est l'Europe qui doit finalement décider aussi d'une harmonisation des taxes? Vous en parliez à l'instant, Gérald. L'Espagne, mais aussi l'Italie, l'Allemagne ont chacun pris des mesures, mais il n'y a pas vraiment de coordination. Je lui pose la question dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien ministre de l'économie et ancien commissaire européen du marché au marché intérieur. Conseil de défense ce matin à 8h30 à l'Élysée. Et un tournant à nouveau dans le détroit d'Ormuz ce week-end. Un navire français hier soir, d'ailleurs CMA-CGM, propriétaire de BFM TV et RMC, a fait l'objet, je cite, de tirs de semonce dans le détroit d'Ormuz. Son équipage est sain et sauf. Du côté des États-Unis, on dit avoir arraisonné un bateau iranien. Qu'est-ce qui se joue dans les heures qui viennent? Peut-être d'ailleurs des négociations. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre là-bas? Et évidemment les conséquences ici.
Nous sommes encore, Apolline de Malherbe, dans cette phase de négociation.
Et on sait qu'elles sont bornées par le fait que dans deux jours, le cessez-le-feu donc doit tomber. Et donc on est aujourd'hui en face de trois scénarios. Je crois qu'il faut bien les avoir en tête et aussi voir tout ce qui se passe. Évidemment, il y a des moments difficiles, voire potentiellement tragiques, parce qu'encore une fois, le détroit est bloqué et il est bloqué dans les deux sens. Il est bloqué par les Iraniens, il est bloqué par les Américains. Donc tous ceux qui essayent de passer, eh bien, il faut démontrer à l'autre qu'on est sérieux. Il faut démontrer à l'autre qu'on est sérieux.
Et parce donc que nous faire sommes... la démonstration qui et a voilà. été faite sur ces deux navires.
Et c'est ce que l'on voit. Alors maintenant, les trois scénarios, lesquels sont-ils? Le premier, c'est que dans les 48 heures qui restent, on tombe d'accord. On tombe d'accord sur un certain nombre de choses. Alors, les Américains ont beaucoup baissé leurs prétentions. On sait désormais que les buts de guerre, c'est rouvrir le détroit d'Ormuz et régler, si on peut dire, je mets des guillemets, vous voyez, le problème de l'uranium et le problème de la bombe atomique iranienne. Il y a encore des éléments à négocier, beaucoup. Mais enfin, c'est les buts de guerre maintenant. Ça serait le premier scénario.
Ce serait
le scénario entre nous, aujourd'hui, où on en est, idéal, parce que, hélas, je dis bien hélas, tout le monde a abandonné l'idée que cette guerre avait pour but, aurait eu pour but et pour conséquence
un changement de régime.
Malheureusement pour la population iranienne, on sait que c'est derrière nous ça. Bon, on verra ensuite dans l'avenir. Pour l'instant, c'est fini. Deuxième scénario, ce serait finalement que, voilà, on se rend compte que c'est compliqué et donc on va se donner un nouveau délai et donc un nouveau cessez-le-feu.
On poursuit finalement le cessez-le-feu.
Et donc on va se donner quoi, peut-être 10 jours, peut-être 15 jours. Mais attention, n'oublions jamais que Donald Trump doit aller en Chine le 14 mai. Pour lui, c'est un voyage qu'il a déjà repoussé. Il devait y aller le 30 mars, il l'a annulé parce qu'évidemment à cause de la guerre. Et ça, c'est très important pour les États-Unis, c'est très important pour lui. On sait qu'il est très affaibli et contesté aujourd'hui aux États-Unis à cause de la guerre. Donc, si jamais il remettait à nouveau, il le paierait politiquement très cher. Donc, on a peut-être une borne là. Et puis le troisième scénario, ce serait le scénario
de la reprise de la guerre.
C'est évidemment celui qui serait le plus négatif. D'abord, évidemment, pour l'Iran, pour la région, mais aussi pour nous, Apolline de Malherbe. Quel est celui dont je pense qu'il est le plus probable? Je prends des précautions, j'ai pas de boule de cristal, mais vraisemblablement, c'est le scénario numéro 2. C'est-à-dire
gagner du temps
et se redonner du temps. J'en veux pour preuve le fait que Donald Trump a demandé à nouveau à son vice-président, J.D. Vance, de mener la délégation américaine. Il semble qu'elle soit partie pour y aller. Il faut quand même une vingtaine d'heures pour y aller, donc très bien. On a vu que les Iraniens font un peu de la résistance, si je puis dire, parce qu'ils ont
Ils disent à ce stade qu'ils ne sont pas prêts à négocier.
Donc voilà. Bon alors, ils sont eux à 3 heures de vol, d'Islamabad. Donc ils peuvent encore changer.
On va voir
dans la journée. J'ajoute qu'ils ont besoin aussi de la chasse pakistanaise pour y aller. Le ciel aérien iranien, il est fermé. C'est quand même un paradoxe. Ce sont les Pakistanais qui assurent la protection donc de la délégation iranienne.
Thierry Bourdon, qu'est-ce que ça change pour nous?
Ça change, si vous voulez, pour nous, pour l'instant. D'abord, il faut toujours regarder les marchés. Les marchés aujourd'hui, ils ne sont pas affolés. Donc, ils misent plutôt sur le fait qu'on va trouver un accord. Parce que, encore une fois, je crois qu'il faut s'arrêter une seconde, si vous le permettez. On était dans une guerre asymétrique. C'était finalement les Iraniens qui avaient le temps. Parce que eux, évidemment, ils peuvent bombarder à coup de drones à 30 000 dollars.
Arrêtés
par des patriotes à 2 millions de dollars. Et donc, cette guerre asymétrique, une guerre de flux contre une guerre de stock, c'était les Iraniens qui avaient l'avantage. Les Iraniens, donc, ils misaient sur le fait que les populations occidentales, nous autres bien entendu, mais aussi les Américains, on se souvient qu'aux États-Unis, on le sait, aux États-Unis, le prix du gallon, il est passé de 2,80 $ à 4,10 $. C'est énorme, ça a un impact politique gigantesque aux États-Unis. L'inflation a redépassé les 3% pour être à 3,3%. Les taux d'intérêt recommencent à monter aux États-Unis. Et Donald Trump est le plus bas dans les sondages. Jamais un président des États-Unis n'a été, à ce stade, à 4 mois des primaires, aussi bas. Donc il paye un prix politique, il faut bien en être conscient, nous. Très fort. Les Iraniens jouaient là-dessus. Sauf que, et ça, il faut vraiment s'arrêter là-dessus, les Américains ont fait quelque chose d'intelligent. C'est qu'ils ont fait un blocus dans le blocus. Ils ont dit, puisque c'est comme ça, nous, on va bloquer tous les bateaux qui vont en Iran ou qui en partent. Mais, Madame de Malherbe, l'Iran a besoin. L'Iran dépend également de beaucoup d'autres pays.
Oui, parce qu'on parle de tout ce qui sort de l'Iran, mais effectivement, plus rien ne rentre.
Par exemple, le maïs. L'Iran importe 5,6 millions de tonnes de maïs. Ils en ont un besoin majeur. Le riz, les huiles, le sucre, bien entendu, les médicaments, beaucoup de choses. Les intrants, évidemment, qui vont servir, d'abord les intrants pour l'agriculture, mais aussi les intrants technologiques pour faire leurs missiles et leurs drones. Donc l'Iran, aujourd'hui, commence à souffrir du blocus. Alors la population a énormément souffert des bombardements, mais j'allais dire, hélas, c'est tragique, je prends des précautions en le disant, ils ont l'habitude. Mais ces destructions font que désormais, beaucoup d'Iraniens sont au chômage. Songez quand même, parce qu'on le sait peut-être pas, l'inflation est à plus de 50%, vous vous rendez compte, en Iran, à plus de 50%. La monnaie iranienne s'est dévaluée de 30% encore. Donc tout ça a un coût économique et social très important. Le bazar, n'a plus, je dirais, de quoi fournir.
Le bazar dont on se souvient qu'il a été aussi l'un des lieux du déclenchement des dernières révoltes.
Les boutiques sont plus achalandées. Alors les gens commencent à faire la queue. Donc là, ça commence à peser aussi.
Thierry Breton, vous avez dit plusieurs choses et je voudrais qu'on essaie de comprendre aussi ce qui se joue. Vous avez parlé d'inflation, vous avez parlé des taux d'intérêt. Vous avez parlé aussi de la guerre des flux et guerre des stocks. Je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Vous parlez quoi? Des munitions?
Alors évidemment, ce sont là les munitions, puisque les munitions pour pouvoir précisément d'un côté se protéger, et c'est évidemment toute l'architecture de sécurité que les États-Unis ont mis, y compris dans les pays du Golfe. Ça a fonctionné plutôt pas mal, mais enfin il y a quand même 10% qui sont passés. Bah 10% c'est 10% de trop, alors peut-être un petit peu moins, mais enfin il y en a qui sont passés et il y a eu des destructions très importantes, suffisamment du reste pour affaiblir d'un point de vue industriel l'ensemble des pays du Golfe. Et on sait par exemple que les Émiratis, ont aujourd'hui reçu plus de missiles que Israël. Donc là on est dans une logique où effectivement les Iraniens continuent à bombarder. Ils ont encore, il faut bien le savoir, ils ont encore des milliers de drones. Ils fabriquent à peu près encore, il y a beaucoup de destructions ont eu lieu, mais une centaine de missiles par mois. De l'autre côté, on fabrique en Occident, évidemment aux États-Unis, 40 seulement missiles antimissiles Patriot, donc pour protéger. Vous voyez, donc il y a un déséquilibre.
Vous voulez dire, en fait, on met plus de temps, on met du temps à reconstituer nos stocks. C'est ça
ce
que vous
voulez
dire.
On met beaucoup de temps à reconstituer nos stocks.
Quand on dit c'est les Occidentaux.
C'est évidemment et les États-Unis, puisque ce sont eux qui fournissent évidemment la quasi-totalité donc de ces systèmes de protection, notamment auprès des pays du Golfe. Donc on avait aussi une asymétrie politique. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les Américains ont rééquilibré maintenant.
Avec le blocus.
Donc, on est dans une phase où, évidemment, chacun va essayer de montrer qu'il peut peser sur l'autre. Je crois qu'il faut le lire comme ça. Elle est très incertaine. C'est pour ça que j'ai indiqué 3 scénarios. Il me semble aujourd'hui que le plus probable, c'est le numéro 2. Mais on va voir.
Inflation, taux d'intérêt et question évidemment de l'impact. Le pétrole est légèrement reparti à la hausse. Est-ce que la France peut continuer à avoir quelques aides ciblées? Les premières entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui, mais elles sont complexes et elles sont moindres que ce que font nos voisins. Quand on regarde l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne en particulier qui baissent notamment les taxes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer une coordination européenne de toutes ces questions-là? On est tous confrontés à la même question et j'ai l'impression que chacun gère un peu à la petite
semaine.
Oui,
parce qu'encore une fois, c'est à la main. Encore une fois, alors vous voyez, il y a des fois on dit on a trop d'Europe, des fois on n'a pas assez d'Europe. Ces questions qui sont des questions de fiscalité, parce qu'à la fin c'est de la fiscalité, sont à la main des États membres et je crois que c'est une bonne chose. Ce qui reste à la main des États membres, c'est évidemment la diplomatie, c'est la défense, c'est la fiscalité et je crois que c'est important que ça le reste. Qu'il y ait de la coordination, oui, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce qu'on n'est pas encore dans une crise. On est dans une crise aujourd'hui.
On n'est pas encore dans une crise.
On est évidemment dans un impact très important, un impact économique.
Vous avez dit
important.
Nous sommes dans un choc des prix temporaire et artificiel. Est-ce que vous maintenez
Je le maintiens. Bien sûr, il faudra du temps pour revenir à une normalité. Mais enfin, regardez, avec ce qui se passe. Alors bien sûr, le baril est à 95 à peu près en gros à l'heure où nous parlons est à $95. Bon, on n'est pas à 100. Alors évidemment, on était à 65, 70. Mais voyez-vous, je crois vraiment que pour la France, d'abord, il faut qu'on le sache, hein, on est le pays qui est aujourd'hui en valeur absolue le plus endetté d'Europe et en proportionnalité.
On n'a pas les moyens.
Mais de toute façon, non, c'est vraiment le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. On n'a pas les moyens. Mais j'ajoute que aujourd'hui, ce qui est tout à fait important d'avoir en tête, c'est que l'État, effectivement, par la TVA, gagne un peu d'argent avec ça.
Est-ce qu'il doit le redistribuer ou est-ce qu'il doit s'en féliciter?
Il doit le redistribuer intégralement. J'ai calculé que par augmentation de 10 dollars le prix du baril, on est à peu près parti à 70 dollars avant la guerre, un peu
donc
moins.
Donc là, on a augmenté de 20 dollars.
De 30, voilà. Une trentaine.
20, 30.
Voilà. Et ben par tranche de 10, l'État engrange entre 30 et 60 millions d'euros. Et ben il faut par mois. Ça veut dire qu'en gros une cinquantaine en gros en moyenne. Et ben il faut intégralement redistribuer tout ça. Il faut évidemment que l'État ne fasse pas un sou de bénéfice sur le dos de la situation. Et donc le redistribue, c'est ce qu'il a du reste commencé à faire pour ceux qui en ont besoin. Évidemment les marins pêcheurs, évidemment les agriculteurs, évidemment
Vous prenez une forme, je cite, de rigueur budgétaire. Vous dites qu'on devrait s'obliger à ne pas faire plus de 1% de déficit. Ça fait des années que tout le monde dit ça. Personne ne le fait. Personne n'a le courage de le faire.
Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous avez raison, je prône non pas cette discipline, mais cette trajectoire, comme les Allemands l'ont fait en 2009 et 2010. Les Allemands qui vivaient en coalition, parce qu'évidemment, il n'y a pas de parti majoritaire en Allemagne. Eh bien, droite comme gauche, ils se sont mis d'accord pour pouvoir se dire que désormais, dans la Constitution, pour se forcer, encore une fois, il y avait un chemin, alors chacun peut mettre dans ce chemin ce qu'il veut, plus d'impôts, moins d'impôts, plus de dépenses, moins de dépenses, mais il y avait un chemin qui faisait qu'il s'interdisait d'avoir un budget en déséquilibre. Et c'est la droite et la gauche allemande qui l'ont fait. C'est faisable. Ce que je propose donc, parce que je vois bien ce qui se passe, on fait des tas de promesses, on fait des tas de projets, on fait des tas de programmes, et puis derrière, on a une Assemblée nationale qui est évidemment éclatée, et donc toutes ces belles promesses tombent dans le trou noir des dépenses publiques, et on n'y arrive pas. Donc ce que les Allemands ont fait, oui, je prône, moi, c'est ma proposition, donc de 1% de déficit, alors pas demain, en 2032, vous voyez, on a encore le temps, c'est pas très agressif, c'est une trajectoire, c'est le projet que je propose à l'ensemble des chefs de parti de mettre dans la Constitution française.
Que ce soit constitutionnel.
Comme les Allemands l'ont fait.
Donc,
comme les Allemands l'ont fait, juste pour
invariable au changement politique de l'Assemblée nationale.
Mais je le redis, ça veut dire quand même tous les ans, parce qu'il y a 1% de déficit, on n'est pas à zéro, parce qu'on a un peu de croissance, c'est entre quand même 70 et 80 milliards de dépenses de plus par rapport à l'année dernière. C'est tout sauf de la rigueur. C'est la discipline, parce que, hélas, désormais, la France est indisciplinée, et cette indiscipline a un coût. Ce coût, c'est la prime de risque.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Et c'est la capacité
à pouvoir.
Mais c'est aussi
nos
intérêts, Madame de Malherbe. Aujourd'hui, on va payer, tenez-vous bien, dans un an et demi, on va payer 100 milliards d'intérêts par
sur notre
an.
Dette.
100 milliards pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Le budget de la France, le budget des administrations, c'est 350 à 380 milliards. C'est quasiment un tiers.
Et quelles conséquences sur les particuliers, sur les entreprises? Les prévisions de croissance viennent d'être revues légèrement à la baisse. On prévoit un retour de l'inflation, y compris dans les rayons, y compris alimentaires. Et vous parliez à l'instant des taux d'intérêt. Est-ce qu'ils peuvent aussi remonter, y compris pour les particuliers et les entreprises?
Bien sûr, les taux d'intérêt du reste ont maintenant tendance à remonter parce qu'évidemment l'inflation repart. Alors, on n'est pas du tout dans les situations, par exemple, qu'on a pu connaître lors de la guerre
en Ukraine. Au début de la guerre en Ukraine.
Parce que là, on part à une inflation qui est aux alentours de 1,7. Donc, elle est parfaitement maîtrisée. Elle va monter un petit peu. Oui, c'est des prévisions. On a sans doute la croissance qui était anticipée à 1 ou 0,9. Peut-être qu'elle sera à 0,9 ou 0,8. C'est encore une situation qui est gérable. Mais, évidemment, il faut être très attentif.
Je vous sens, Thierry Breton, mon ressenti est juste, vigilant, mais pas outrageusement inquiet.
Je ne suis pas le seul, les marchés sont également dans cette perspective. Je ne dis pas que les marchés ont toujours raison, mais parce que je fais l'analyse comme vous, que aujourd'hui, compte tenu de la pression qui s'exerce sur les États-Unis, et notamment politique autour de Donald Trump, il faut jamais l'oublier. Lui, il écoute les marchés. Les marchés lui disent, il faut maintenant arrêter. Parce qu'il n'y avait pas de but de guerre quand on est parti.
Vous avez vraiment l'impression qu'il l'écoute?
Oui, il écoute. Les seuls qui l'écoutent aujourd'hui, ce sont les marchés. Et il y a une personne qui joue un rôle très important pour lui rappeler, c'est sa directrice de cabinet.
La vigie, en quelque sorte, on considère qu'elle a vraiment un rôle important pour le canaliser. Elle a repris vraiment la main,
et on voit qu'il y a un peu plus de rationalité désormais pour l'atterrissage de cette crise. Mais les Iraniens aussi ont désormais besoin, à cause, grâce, on peut dire ce qu'on veut, de ce blocus dans le blocus, désormais, il y a une sorte de réciprocité de l'impact politique et sur les populations. Donc tout le monde, désormais, a intérêt à faire atterrir, je dirais, un accord. y compris par parenthèse, ceux qu'on oublie mais qui sont très présents dans la région et de plus en plus présents, les Chinois.
Thierry Breton, deux questions encore. L'une d'abord sur Elon Musk, puisqu'on est en train de parler des États-Unis, il est convoqué par la justice française. Vous avez eu un véritable bras de fer, je dirais, par réseaux sociaux interposés avec lui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quel regard vous portez aussi là-dessus?
Écoutez, j'ai compris qu'il avait, il était convoqué par la justice française parce que, si j'ai bien compris, il y a eu un moment où son réseau X et notamment son programme Grok d'intelligence artificielle pouvait tout simplement déshabiller n'importe qui.
Mais est-ce qu'il faut
et que c'est totalement illégal et que malgré les demandes de retirer tout cela, ça n'a pas été fait. Donc je pense qu'il y a peut-être matière à s'expliquer. En tout cas, c'est ce que juge. C'est évidemment illégal et c'est contraire au droit et notamment.
Et donc il doit se plier. Il doit se plier.
Bah, comme tout le monde. Et encore une fois, il ne s'agit pas de brimer. J'entends dire que et voilà le premier amendement américain dit qu'on peut dire tout et n'importe quoi aux États-Unis, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on peut dire tout n'importe quoi aux États-Unis qu'on peut dire tout n'importe quoi en Europe. Et donc, si jamais il veut utiliser, avoir la chance de pouvoir vendre ses services X en Europe. Je rappelle qu'on est le premier marché le plus solvable au monde en matière de marché numérique. On est une fois et demie plus important que le marché américain en nombre de personnes et donc c'est très important dans le marché numérique. Ben, s'ils veulent pouvoir le faire, eh ben, il faut tout simplement qu'ils se plient à nos règles, quels que soient encore une fois les messages qu'il envoie aux États-Unis. Ça nous regarde pas. Il fait ce qu'il veut.
Mais s'il est
en Europe, il doit juste respecter la loi et le droit européen.
Thierry Breton, vous êtes l'ancien ministre de l'économie et ancien ministre au marché intérieur. Aujourd'hui, le MEDEF commence un certain nombre de déjeuners. Ils déjeuneront cette semaine avec Édouard Philippe, avec Marine Tondelier. Mais aujourd'hui, c'est Jordan Bardella. Déjeuner avec le RN. Est-ce que c'est pour vous du réalisme, une sorte de réel politique, ou est-ce que c'est une manière d'adouber ou de banaliser le Rassemblement National?
Mais le MEDEF est une organisation patronale. Et le MEDEF, évidemment, donc en tant qu'organisation, ça me semble parfaitement légitime, ben, qu'il le voit, toutes celles et tous ceux qui aspirent à être président, à diriger notre pays, et surtout quand on a des programmes économiques qui sont pas très très précis, pas très clairs. Pour l'instant, je n'ai pas entièrement compris la finalité du programme économique du MEDEF.
Mais du MEDEF ou du Rassemblement National?
Du Rassemblement National. Mais évidemment, le MEDEF, on n'a pas de programme, il est là. Que le MEDEF reçoive tous ces candidats, ça me semble parfaitement légitime et c'est, je dirais, son rôle. Alors après ça, en tirer les conséquences et les conclusions qu'on veut, ça je laisse à chacun le soin de le faire. Moi, ça ne me choque pas du tout, bien au contraire, que le MEDEF de les écouter, mais aussi de faire savoir ce qui est important pour l'économie française et pour la compétitivité de nos entreprises.
Merci Thierry Breton d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Alain Bauer était mon invité dans le face-à-face. Il était resté, souvenez-vous, face à Canteloup. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Nous avons évidemment parlé de l'Iran. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour Monsieur le Président.
Oh. Hey, bonjour. Mais oui, c'était la guerre. Je remets les lunettes de Top Gun. Ça avait bien marché la dernière fois, vous vous souvenez, hein? Waouh, wow. C'est mon look warrior. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Wow. Oh, un avion de chasse. Mais non, c'est vous, Apolline. Ça fait plaisir, un petit compliment comme ça.
Oui, bon, allez, hein? Monsieur le Président, un peu de sérieux tout de même, c'est la guerre.
Oui, pardon, vous avez raison. Revenons. Redevenons sérieux, il y a Alain Bauer face à nous. À ce sujet, j'ai décidé de mobiliser en urgence tous les réservistes. De la gendarmerie, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air. Comme Monsieur Bauer, qui est colonel de réserve de l'armée de l'air, il faut le savoir. Même si c'est vrai que quand on l'entend parler sur tous les plateaux, la réserve, c'est pas trop son truc. Hein. Bref, les réservistes mobilisés auront pour mission de sécuriser les sites stratégiques français les plus importants, c'est-à-dire les ronds-points.
Les ronds-points, c'est-à-dire comment ça, l'armée va sécuriser les ronds-points?
Bah écoutez, vu comme ça pète de partout au Moyen-Orient, demain on va se retrouver avec le litre d'essence à 5 euros.
Ah. Hein,
et puis la suite, on la connaît, c'est le retour des gilets jaunes sur les ronds-points, les banderoles, Macron démission. Donc, je pensais avoir faire une dernière année sympa, mais là Trump est en train de tout me saloper. Hein. Quoique, finalement, l'international, c'est quand même le truc où je brille le plus.
Donald Trump a donc attaqué l'Iran et il est avec nous ce matin pour en parler.
Yeah, bonjour Pauline de Malherbe, Chine de Malherbe. J'ai gagné, c'est moi, j'ai éliminé l'Ayatollah Khomeini. J'ai été obligé d'employer la force parce que les Iraniens ne savent pas négocier avec moi. Et aucun effort, et pas pour proposer de m'offrir un avion présidentiel gold, pas proposer de terrain pour construire un club de striptease à Téhéran, même pas une petite Stormy Daniel locale.
Ah oui, bon, ils savent pas y faire avec vous, dis donc.
Mais c'est pas ma faute, c'est l'affaire Epstein. Et comme on en parlait trop, il fallait attaquer l'Iran pour faire diversion, tu vois. Comme j'avais déjà fait avec Maduro, Venezuela ou avec le Groenland. Alors voilà, maintenant, vous le savez, si vous voulez la paix dans le monde, c'est simple. Arrêtez de parler du dossier Epstein.
Le conflit au Moyen-Orient fait craindre une flambée des prix du pétrole qui pourrait atteindre 120 dollars le baril. Bruno Le Maire, tiens, non vous êtes là, bonjour.
120 dollars le baril, non mais c'est génial. Une opportunité unique, Madame de Malherbe, pour relancer l'économie du pays. C'est inespéré.
Mais comment ça?
Mais c'est tout con. Vous allez à une station-service, vous remplissez un jerrycan, ça vous coûte 40 balles, et samedi, vous le revendrez 150. Vous imaginez à culbute.
Ah ouais.
Mais je pense aussi à ceux qui n'ont pas les moyens de remplir un jerrycan. Donc vous remplissez juste une tasse à café ou un dé à coudre. Hein, ça marche aussi. Même les pauvres peuvent participer.
Oui, ça se tient.
Oui, et on peut même aller plus loin même de merde. Ah. Moi, si j'étais à la place de Le Cornu, je ferais comme au poker. All-in, je miserais tout le budget de la France pour acheter des barils. Hein, fin de semaine, on les refourgue et je peux vous dire qu'on les rembourse, nos 3 000 milliards de dettes. Hein. Et vous savez pourquoi on ne le fait pas? Vous savez pourquoi on ne le fait pas?
Mais parce que
je ne suis plus au gouvernement.
Ah, mais c'est ça. Mais bien sûr!
Mais
oui, c'est parce que
vous
n'êtes plus au gouvernement!
Mais oui, le redressement d'un pays, oui, ça tient à rien.
Ah ouais.
Oh, j'ai bien retourné le truc.
Ah ouais.
Ah, je me suis refait une image de winner.
On peut le dire comme ça. Une des conséquences totalement inattendues de cette guerre, c'est Vincent Moscato qui passe justement ses vacances à Dubaï et qui se retrouve coincé là-bas. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le super Moscato Show.
Coincé, faut le dire vite, Apolline, faut le dire vite. Quand t'es coincé au boulot, oui, t'es coincé, mais quand t'es au bord de la piscine, j'appelle pas ça coincé, tu vois. Je te raconte, j'étais au bord de la pistache, tu vois, tranquille, face au séducteur, tu vois, avec le maillot léopard classique. J'entends que ça pétarade, je me suis dit, bon, c'est Dubaïote, tu sais, ils sont bling-bling, ils font des feux d'artifice tous les jours pour un oui, pour un non, tu vois. Puis même si je me disais, c'est en plein jour, c'est con de faire un feu d'artifice en plein jour, toi, que dalle, quoi. Puis là, tout d'un coup, je vois quoi? Toutes les gonzesses, tu vois, toutes les gonzesses, genre influenceuses, tu vois, qui tournaient des vidéos pour la pistoche, qui lâchent leur perche à selfie, tu vois. Ils se barrent en courant à l'intérieur de l'hôtel, façon panique, il manquait que la musique de Bénil, tu vois. Et là, je vois un truc qui arrive sur moi, je dis, tranquille, donc je lève ma carcasse, je vois très vite le truc, je l'attrape, le truc, je réflexe de rugbyman, tu vois, je fais drop direct, tu vois, avant une deux, tu vois. Le bordel, il se plante à 200 mètres de là, tu vois, il explose, il fait un gros boom, sur une île, rasée, les palmiers, plus d'arbre que dalle. Ouais, alors, il y a un monsieur qui arrive et qui me dit, monsieur Moscato, comment faire ça? Parce qu'apparemment, c'était un missile iranien. C'est pas passé loin, Pauline, t'imagines, il me dit comme moi. Et qui c'est qui me remplace pour le super Moscato Show? Antoine Dupont, tu vois le truc, bienvenue au super Dupont Show.
Ah oui.
Dupont Show, putain, c'est bien pour une radio pays. Revienne, pas pour rien, monsieur.
Pas soyez prudent quand même, hein, Vincent. Hein.
Ah ben là, je ne sors plus l'hôtel.
Ah oui.
J'ai consulté Alain Bauer, il m'a dit au téléphone, il m'a dit je ne sors plus l'hôtel. Je fais mon émission, tu vois, quand même, à distance, tu vois, tranquille, confiné à ma chambre, il m'a dit des conditions difficiles.
Vous venez d'entendre une détonation là, Vincent, ça va?
Non, ne t'inquiète pas, c'est juste au room service qui vient de déboucher un McDonald's de champagne pour le petit déj.
C'était Nicolas Canteloup, place au GG. Quel est le programme, Olivier?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les Grandes Gueules se préparent pour 3 heures de débat sur l'actualité à partir de 9h sur RMC, RMC Story. On parlera notamment de l'opération séduction lancée par Jordan Bardella vis-à-vis des patrons. Le candidat, sans doute, du RN veut séduire les chefs d'entreprise. Est-ce qu'on y croit? Est-il crédible? Ça sera l'un des débats dans les GG. À tout de suite.